Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, 17h06 sur RMC, l'intégral sport qui se poursuit jusqu'à 19h avec un très beau programme et un très bel acolyte, c'est Sébastien Piocel. Re-salut Sébastien.
Re-salut Arnaud, bonjour à tous.
Allez, sans tarder, direction Louis II, Monaco-Clermont, les matchs de Ligue 1 qui s'enchaînent en cet après-midi sur RMC, la 32e journée à Louis II, au commentaire de cette partie, Valentin Jamin et Maxime Tilliette. Salut messieurs.
Salut à vous, salut à toutes et à tous. 6 minutes de jeu, 0-0, mais Clermont a bien entamé cette partie avec plusieurs corners et même un but qui a été refusé parce que Zéphane, qui a centré pour Bella, était hors jeu. Mais Clermont, dernier de Ligue 1, qui peut se rapprocher de la place de barragiste en cas de succès, est bien entré dans son match face à des Monégasques qui veulent conserver leur deuxième place.
Ouais, 2 points d'avance sur Brest pour l'AS Monaco. Bonjour à tous. 3 points sur Lille. Il ne faut pas gâcher le bon travail fait sur les dernières semaines par l'AS Monaco, notamment en battant ses deux concurrents directs, confirmer et surtout se remettre à l'endroit après la défaite à Lyon le week-end dernier.
7 minutes de jeu, 0-0.
Un petit point sur le Giro, puisqu'on prenait à quelques kilomètres de l'arrivée de cette première étape avec Johan Bredov qui suit ça pour nous et Lilian Calmejean qui faisait course en test. Qu'en est-il? Salut Johan.
Salut Arnaud, salut à tous. C'est fini pour Lilian Calmejean, repris par ce groupe de contre qui est sorti du peloton des favoris. Ils sont 8 dans ce groupe avec Nicolas Conchi, Maximilian Charman, Alex Baudin le français qui est en Jean-Michel Honoré, Alessandro De Marchi, Giulio Pellizzari et Damien Caruso. Lilian Calmejean qui s'est accroché à ce groupe, mais ça me paraît trop compliqué. 20 secondes d'avance sur le peloton des favoris dont fait partie évidemment Tadej Pogacar, mais attention hein, ce coup qui pourrait bien aller au bout. Allez, encore 7,4 km à parcourir avant l'arrivée à Turin.
Et tu interviens dès que c'est nécessaire effectivement, parce que on veut voir qui endossera la tunique, ce maillot rose sur ce Giro. Retour à Louis II, Monaco-Clermont avec un gros tacle bien agressif côté monégasque, messieurs Valentin et Maxime.
Oui, après 8 minutes de jeu, ce tacle de Brelembolo, l'avant-centre de Monaco, voilà, qui a évidemment très faim puisqu'il est titulaire. On pourra effectivement reparler, lui qui s'était rompu les ligaments croisés d'un genou. Il a taclé en retard en voulant récupérer une passe un peu imprécise de Magnès à Cliouche. Tacle, et Johan Magnin était revenu défendre la semelle d'Embolo sur Magnin et le long ballon d'ailleurs des Clermontois sur ce dégagement. Le hors-jeu signalé même par monsieur l'arbitre. Mais oui, Embolo, c'est l'information qui est titulaire pour la première fois cette saison.
C'est ça, le premier titulaire. Sa dernière, c'était il y a 412 jours. Quel long chemin et longue période de souffrance, de travail. Lui qui s'est fait les croisés le 7 août, hein, au tout début de la préparation, et qui regagne en minutes depuis sur les 3 dernières journées. D'abord 6 minutes, ensuite 23, puis une mi-temps complète face à Lyon. Et désormais, il est titularisé aux côtés de Wissam Ben Yedder. En tout cas, sur ce début de rencontre, on voit des Clermontois plutôt intéressants.
Ouais, qui effectivement vont vers l'avant, qui n'hésitent pas avec le même 11 quasiment, messieurs, que celui qui vient de battre Reims, hein, parce que Clermont est encore en vie, a encore de l'espoir grâce à son succès 4-1 le week-end dernier contre Reims.
Oh, c'est
attention
bien fait,
à la percée de Crépin Diatta, plein axe, il va accélérer, il va mettre un dans le dos de Ben Yedder alors qu'il était parti
à droite là, avec Vanderson.
Il y avait plus d'espace effectivement alors que Ben Yedder est à l'entrée de la surface. C'est le contre Clermontois, le ballon en profondeur bien couvert par Wilfried Tsingo des Clermontois, et donc je vous le disais, qui ont gagné 4-1 et donc qui se permettent encore de rêver. Il y a un seul changement dans le 11, c'est Bella, Jérémy Bella, titulaire pour la première fois depuis un an et demi en attaque, parce que Rachani, qui était sur le terrain face à Reims, est suspendu.
Il a eu les croisés, lui aussi, ou...
Non, il a juste pas eu la confiance de son
club. On lui souhaite pas ça.
Jérémy Bella. Il a joué hein, mais pas titulaire, et c'était vraiment un garçon rotation, mais il y a beaucoup d'absents. Alvina n'est pas là, Konaté, Gonalon, Rachani, Matsima qui est prêté par Monaco ne peut pas jouer non plus, donc on fait un petit peu aussi avec les hommes qu'on a du côté de Pascal Gassien pour espérer se maintenir ici à Monaco. Toujours 10 minutes de jeu, toujours 0-0, mais on va dire que c'est une partie équilibrée pour le moment,
sachant qu'il y a de l'enjeu évidemment pour Monaco deuxième, et peut-être asseoir un peu plus son statut de dauphin. Une petite colle pour vous messieurs, la dernière fois que l'ASM a terminé deuxième,
2017-2018.
Tu m'as dit tout à l'heure.
Voilà, Maxime a bossé. Bravo.
Ah bah oui, 2018. On colle pas Maxime.
Il y a eu de la Ligue des Champions, il y a eu des 3e places, mais bon, voilà.
Il y a eu des tours préliminaires et des barrages, mais pas de match de groupe.
La fameuse 3e place. Très compliqué.
Shakhtar, PSV Eindhoven, on s'en souvient, c'est beaucoup de mauvais souvenirs pour les Monégasques.
Maxime.
Exactement.
Il faut être dans les 3 premiers, donc bon, ils sont quand même bien.
Ça change un petit peu, mais bon, la place de Monaco, quand tu vois l'effectif, c'est un dauphin presque naturel.
C'est en Coupe d'Europe cette année en plus. Donc,
oui, en plus. Ouais, ah, mais c'est assumé. Hein, ils cherchent pas la troisième place. Hein, ils veulent finir deuxième. C'est ce que a dit Hutter et les joueurs répètent depuis plusieurs semaines. Alors qu'en soit la deuxième comme la troisième offre le même billet. Enfin non, techniquement peut-être il y aura un peu plus de billets dans les caisses du club si tu termines deuxième. Mais la finalité est la même, c'est-à-dire la qualification directe pour la phase de groupe de Ligue des Champions. C'est l'objectif, mais de préférence avec la deuxième place.
Et pour Clermont, ils peuvent être officiellement en Ligue 2 parce que Le Havre a gagné. Et si tout à l'heure, oui, déjà il y a une défaite à Louis II, première condition, et si Metz s'impose tout à l'heure face à Rennes, ça peut être la Ligue 2 dès ce soir pour les hommes de Pascal Gassien.
Pour eux ça et Lorient du coup.
Un petit mot rapide du Giro, messieurs. Johan Bredov, puisqu'on est dans les 10 derniers kilomètres.
Même les 4 derniers kilomètres et surtout la dernière difficulté, on en parlait, le San Vito. Alors elle n'est pas répertoriée, mais c'est 1,9 km à 10% de moyenne. Voilà, c'est très compliqué. Et on a un homme en tête, c'est Nicola Conchi, l'italien de l'équipe Alpecin qui est en tête et qui mène la danse. Il a pris 20 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants et surtout 47 secondes d'avance sur le peloton où Tadej Pogacar se met en mouvement direct sur cette difficulté. Tadej Pogacar qui va essayer de combler le trou ou alors surtout de faire craquer les autres favoris pour le classement général. Tadej Pogacar en tête du peloton, mais 54 secondes de retard sur un homme en tête, Nicola Conchi, à 3,9 km de l'arrivée.
Allez, on revient dans un instant. 0-0 entre Monaco et Clermont et les derniers hectomètres de cette première étape du Giro. C'est dans l'Intégral Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Sébastien Piocel, on suit ce match de Ligue 1 entre Monaco et Clermont. Bientôt, le quart d'heure de jeu 0-0. On retrouve Valentin Germain et Maxime Tilliette. Les derniers kilomètres au Giro. La première étape entre Venaria Real et Torino. Ça se décante, Johan Bredov.
3,2 km.
Et... la surface Brelembolo, le ballon qui est dans les 6 mètres un petit peu égaré. Il n'a pas réussi à frapper Brelembolo. C'est capté par Maurizio, le gardien clermontois, alors qu'il avait été trouvé dos au but. Sa puissance a failli déménager la défense clermontoise, mais Maurizio donc sans cesse. Toujours 0-0 le quart d'heure de jeu.
Quel travail de conservation quand même.
Pour Maxime et Valentin, première occasion effectivement pour les Monégas. Les trois derniers kilomètres, Johan, on t'a coupé. Ça revient sur l'homme de tête.
Et oui, Nicolas Conchi peut se retourner. Il va voir la flèche. Tadej Pogacar lui passe devant. Tadej Pogacar qui a repris plus de 30 secondes sur l'Italien. Un seul homme est capable de suivre. C'est Jonathan Narvaez, le coureur d'Ineos. On attendait peut-être un autre coureur d'Ineos, Geraint Thomas, à ce niveau-là. Mais non, c'est bien Narvaez qui suit Tadej Pogacar qui est en train de faire un numéro sur ce San Vito. Ça va basculer donc au sommet de cette ultime difficulté qui n'était pas répertoriée, et ensuite il restera 3 km en descente avant l'arrivée à Turin, mais ça va se jouer certainement entre ces deux hommes, sauf si ça se regarde un petit peu trop et que ça revient derrière. Mais voilà, Tadej Pogacar, il est là, il s'est montré, c'est lui le plus fort, un seul homme est capable de le suivre, Jonathan Narvaez. 2,7 km encore à parcourir, ça va aller vite maintenant dans cette descente.
Et on revient te voir très rapidement pour savoir qui portera le maillot rose qui va remporter cette première étape du Giro. Retour à Louis II avec la première occasion monégasque. Valentin Germain, Maxime Tilliette.
Oui, 16e minute de jeu, donc 0-0. Brelembolo trouvé dans les 6 mètres tout à l'heure. Il a été contré par un défenseur, mais c'était intéressant. Ce sont les qualités qu'il apporte. Ouh. Alors que la Minamino, un ballon entré dans la surface. Il enroule en lucarne. Avec son pied droit, le japonais Takumi Minamino qui vient caresser ce ballon. Maurizio n'a pas bougé et le score est ouvert à Louis II. 1-0 pour Monaco.
Qu'est-ce qu'il est précieux cette saison, le japonais qui là ouvre le score d'une frappe limpide, magnifique dans la lucarne de Maurizio pour donner de l'air à ces monégasques dès l'entame de ce match.
Il est bon, hein,
magnifique,
Sébastien.
Quel but, en plus pied droit, donc forcément c'est pas son meilleur pied, mais il a beaucoup de temps aussi pour armer sa frappe. Il est seul, mais c'est vrai que c'est imparable. Et voilà, ça vient confirmer l'énorme saison de Minamino, alors que la saison dernière c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est forcément clair. Ça met Monaco aussi sur de bons rails.
Un pauvre Maurizio qui est obligé de regarder ce ballon venir mourir dans sa lucarne. Et voilà Monaco qui prend tout de suite les devants.
Tatoumi Minamino, 29e but, tu parlais de ses stats, 9e but et 5 passes décisives pour Tatoumi Minamino cette saison, après une saison dernière qui était très très dure à niveau adaptation.
Ah oui.
Il est très utilisé, il a la confiance de son coach et il lui rend très bien puisque Monaco est donc devant face à Clermont, 1-0 après 16 minutes de jeu. Et ce bijou de Tatoumi Minamino, et là ça va être dur pour les Clermont.
Le dernier kilomètre du Giro, puisqu'on vient de passer la banderole qui indique le dernier kilomètre, 1000 mètres encore, ils sont 3, Johan Bredov.
800 mètres, même exactement. En arrivant en descente, ça va très vite. Ils sont trois avec Tadej Pogacar qui mène la danse derrière, devant Jonathan Narváez et Maximilian Charman. C'est accroché le coureur de la Bora. Il reste encore 600 mètres à parcourir. Ça va se jouer entre ces trois. Qui va remporter cette première étape? Qui va prendre le meilleur rose? Tadej Pogacar à l'écrou, évidemment, mais il a bien été suivi quand même par le champion d'Équateur Narváez. Charman qui avait anticipé, qui est là. On a Alex Baudin aussi qui est pas très loin, qui pourrait peut-être aller rejoindre ce trio de tête si ça se regarde un petit peu trop. Allez, ça va se jouer entre Pogacar, Charman, Narváez. Encore quelques centaines de mètres à parcourir. Là, faudrait que la réalisation fasse un plan sur les trois hommes en tête quand même, parce que c'est le principal. Tadej Pogacar qui mène toujours la danse, évidemment. On le surveille, Tadej Pogacar qui se retourne, qui voit l'accélération de Maximilian Charman. Narváez, Pogacar face à Narváez. Narváez qui va pouvoir passer. Narváez qui va battre peut-être Tadej Pogacar. Oh, cet exploit serait monumental. Encore quelques mètres pour Narváez qui s'impose derrière devant Tadej Pogacar. Quelle victoire de champion d'Équateur! Il a créé la surprise. Il est revenu dans la roue de Tadej Pogacar pour le dépasser. Elle est magnifique, cette victoire du champion d'Équateur. Narváez s'impose et va prendre le rose au nez et à la barbe de Tadej Pogacar.
Et pour pas grand chose, on va revoir la photo finish. Il y a à peine un boyau, probablement, Johan.
Il n'y a pas grand chose, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a été fort, le coureur d'Ineos, quand même. Parce que battre au sprint Tadej Pogacar, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, dans les sprints en petit comité comme ça. Mais c'est bien lui qui s'impose et qui tombe dans les bras de Geraint Thomas, son leader. Voilà, victoire de Jonathan Narváez ici à Turin pour cette première étape du Giro, et l'Équatorien qui va revêtir le beau maillot rose de leader.
Merci beaucoup Johan, avec une petite surprise, Tadej Pogacar qui ne va pas tout de suite s'emparer du rose sur ce Giro, la première étape donc qui vient d'arriver. Le mardi 7 mai, je ne sais pas ce que tu fais, Sébastien Piocel.
Mardi, je serai à l'étranger.
Ah. Le PSG affrontera surtout le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions. Paris des Princes, c'est le match retour avec cette expérience RMC. C'est la meilleure façon de vivre cet événement. On vous propose, avant le match, visite des studios RMC, rencontre avec les équipes. Ensuite, direction le Parc des Princes pour assister au match avec la
Ben Yedder qui manque la frappe dans les 6 mètres. Pardon, allez-y.
Pas fini.
La transversale finalement de Ben Yedder qui, avec son pied gauche, voit le ballon lui revenir dessus. La frappe sur la barre. Clermont est en panique. Corner à venir. Toujours 1-0 pour Monaco.
On arrive dans un instant. Direction donc le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Et ensuite, retour à RMC pour voir les coulisses de l'after et le débrief du match en direct. Dès que vous entendez ce signal, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16 pour vous inscrire. Et attention, l'alerte peut tomber à n'importe quel moment. Soyez bien attentifs. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC. Un point, le temps, le score. Est-ce que le corner n'a rien donné entre Monaco et Clermont, Valentin et Maxime?
Non, puisqu'on a un nouveau corner. Il y a une frappe lointaine de Minamino qui a été déviée. Donc toujours 1-0 pour les Monégasques après 20 minutes de jeu. Le but magnifique de Takumi Minamino.
A tout de suite avec Sébastien Piocel pour la suite de l'Intégral Sport, avec également le match de Dortmund. Tiens, on va aller saluer Pierre Thévenet, puisqu'on est dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Le B4B qui avait fait le travail en première mi-temps. Salut Pierre.
Salut Arnaud, salut à tous. Ouais, ça va être victoire tranquille pour les joueurs de Dortmund. Il reste 5 secondes dans le temps additionnel. Ils mènent 5-1. Les hommes des Interzit se prépare donc parfaitement cette demi-finale retour au Parc des Princes mardi soir.
Merci Pierre, les Parisiens sont prévenus, le B4B reste en pleine forme. Allez, à tout de suite dans l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec Sébastien Piocel.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
17h24 avec Sébastien Piocel, on est ensemble jusqu'à 19h où vous retrouverez Stephen Time, Stephen Brun et Benoît Boutron. On suit ce match entre l'AS Monaco et Clermont un peu plus tôt. Le Havre s'est imposé face à Strasbourg 3-1, mettant un peu plus la pression sur les Clermontois dans le dur et qui savent que la Ligue 2 se rapproche petit à petit et la deuxième place se rapproche petit à petit pour l'AS Monaco. Messieurs Valentin Jamin et Maxime Tilliette à Louis II.
25 minutes de jeu, 1-0 donc pour l'AS Monaco. Ce but de Minamino, magnifique frappe enroulée du pied droit en pleine lucarne à la 16e minute. Effectivement, Clermont, en fonction du résultat notamment de Metz un petit peu après, en cas de défaite, pourrait être officiellement envoyé en Ligue 2 cet après-midi. Les Clermontois dans le dur, puisque tout à l'heure, donc, on vous l'a compté en direct, Ben Yedder avait été trouvé dans la surface sur un centre de la droite d'Akliouche dans les 6 mètres. D'abord, il bute sur Moridio, deuxième ballon, et avec son pied gauche, il expédie la frappe sur la barre transversale. Mais après des minutes un peu difficiles, Monaco est vraiment entreprenant.
Oui, c'est clair, alors que les Clermontois peuvent avoir des regrets, parce qu'on avait l'impression qu'ils faisaient une meilleure entame sur la pelouse par rapport au Monégasque, mais il y a des coups qui ont été mal joués, je pense notamment à John Kay ou Ouais, c'est compliqué. Virginius aussi, il a eu une belle situation où il s'emmène mal le ballon. Donc il y a de quoi être frustré parce que, mis à part ça, dans les constructions, les ressorties de balles, on voit des choses intéressantes. Malheureusement, en revanche, depuis quelques minutes, c'est un peu plus fébrile parce que les Monégasques essayent de pousser pour prendre les devants et plutôt même le large.
Attention d'ailleurs à Mbolo à l'entrée de la surface. Il est passé devant Gassien à droite. Il y a de l'espace. Il va réussir à trouver Vanderson qui a de la place dans la surface côté droit. Il se met sur son pied gauche. La frappe au deuxième poteau. Est-ce qu'elle est déviée pour un corner à Kip Ben Eladj? L'arbitre indique 6 mètres. Mais encore une fois, il y a des gros trous là dans la défense clermontoise depuis le début de ce match. Et face à une armada offensive comme Monaco qui a mis tout simplement 58 buts cette saison, c'est la deuxième meilleure attaque, 59 maintenant même. Eh bien, on ne peut pas laisser autant d'espace. Elle était d'ailleurs déviée, je crois, cette frappe.
Mais ce sera finalement à 6 mètres. Dans l'axe, même à chaque fois qu'il verticalise dans l'axe, elle passe un peu appuyée. Il trouve toujours des relais et bon, il se retrouve en situation de frappe trop souvent, les Monégasques.
Mbolo notamment là en l'occurrence sur cette situation, et c'est vrai qu'on parlait de son retour, mais il apporte aussi à 18h un autre profil que celui de Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun. Mbolo, il est dur à prendre. On a vu sur la première situation du match Mehdi Zéphane qui était bloqué dans son dos. Mbolo, il a pu avancer avec le ballon, se retourner, enchaîner, pouvoir tenter sa chance pour alerter Morijo. Donc c'est vrai que c'est un profil en plus pour à 18h sur cette fin de saison qui va compter.
Je vous confirme, complémentaire avec Ben Yedder, hein. c'était une association qui marchait bien, ouais, avant la blessure de Ben Yedder.
Je vous confirme la victoire de Dortmund face à Augsbourg 5-1 à quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain pour ce match retour que l'on attend tous. Demi-finale de Ligue des Champions et puis au Giro, une victoire confirmée pour le champion équatorien Narvaez, et Pogacar a fini 3e au sprint. Voilà, Poggi a eu un petit peu de mal pour ce sprint lors de cette première étape de ce Giro 2024. Messieurs, vous nous appelez effectivement Louis II s'il se passe quelque chose, mais on va faire petite Incartas s'intéressait à un adversaire direct de Monaco et à une équipe que tu aimes bien, Sapiocel, c'est Brest-Nantes. C'est l'affiche de 21h que vous suivrez dans l'After Live. Et Edgar Grollo est déjà sur place aux portes du stade Francis Leblay. Salut Edgar.
Salut Arnaud, salut Seb, salut à toutes et à tous.
Avec le stade brestois officiellement européen et 3e qui reçoit donc Nantes, ouais, 14e, toujours pas sauvé, même si ça pourrait l'être à l'issue de cette 32e journée. Edgar, les Brestois, donc, c'est officiel depuis leur victoire incroyable à Rennes le week-end dernier, ils joueront l'Europe l'année prochaine. Est-ce que ça se ressent à quelques heures du match dans l'excitation, l'engouement en ville?
Bien sûr, c'est peut-être même du jamais vu, hein, l'engouement autour du club ici cette saison. Le stade va évidemment être plein ce soir, 7e guichet fermé consécutif. Toute la ville a conscience finalement que c'est une saison unique dans l'histoire du stade brestois, hein. Le stade brestois, c'est 74 ans et seulement 5 top 10 de première division, il faut s'en rendre compte. Brest n'a jamais fait mieux que la 8e place, n'a jamais joué l'Europe. Donc quoi qu'il arrive, c'est une saison historique. Il y a vraiment un amour immense entre les supporters, les joueurs. Après la victoire 5-4 à Rennes dimanche dernier, les joueurs ont été accueillis par des milliers de supporters à Brest. C'était une communion incroyable. Tout le monde faisait la fête ensemble et la fête va continuer ce soir au stade Francis Leblay.
Bon, Sébastien a envie d'avoir quelques nouvelles des Canaries. Edgar, ils ont un calendrier quand même terrible, hein. Je te vois faire l'amour, Sébastien.
Non, clairement, c'est difficile d'imaginer un calendrier plus compliqué, hein, pour le 15e de Ligue 1. Les Nantais qui vont chez le 3e de Ligue 1 ce soir, donc, qui accueillent Lille dimanche prochain et qui vont à Monaco pour la dernière journée. C'est infernal, tout simplement, comme calendrier. Mais il faut quand même garder en tête que Nantes a son destin entre les mains malgré tout, hein. 3 points d'avance sur Metz, le premier barragiste. 6 points d'avance sur Lorient qui a un match en plus. D'ailleurs, en cas de victoire et d'exploit ce soir à Brest, Nantes peut définitivement distancer Lorient et Clermont et donc écarter la possibilité au moins d'une descente directe en Ligue 2.
Merci Edgar. Pas cadeau quand même pour Nantes, hein. Ce Brest-là, pleine confiance totale, le succès à Rennes, incroyable.
Pas cadeau, mais en même temps, il travaille mal depuis des années. Donc à un moment donné, tu te retrouves à chaque fois dans des difficultés en fin de saison. Et bon, c'est vrai qu'ils ont encore moyen de se sauver avec ces 3 derniers matchs, même si c'est des gros adversaires, et notamment Brest. Voilà, ils sont capables aussi, notamment à l'extérieur, de réaliser des exploits ou au moins aller prendre un point. Après, pour revenir sur Brest, ils sont à leur place. Je suis admiratif de ce qui a été fait par cette équipe cette saison, et j'ai envie de dire pendant plutôt un an et demi, depuis l'arrivée d'Éric Roy, sans oublier Grégory Lorenzi qui est à la tête du club et qui fait un énorme travail. Et moi, je suis plutôt content de voir voir une équipe comme ça qui va, j'espère pour eux, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est rafraîchissant.
Et comme quand on parle des dynamiques d'une saison à l'autre, ça se poursuit hein, avec l'arrivée des Griquois. Ils avaient très bien fini 2022-2023 en arrachant le maintien et ça s'est poursuivi. C'est vrai que l'effectif n'avait pas trop bougé, mais il y a aussi une forme de continuité. Quand on voit des clubs bien finir ou mal finir cette saison, on sait qu'il y a des répercussions pour la saison d'après.
Ils sont certainement un petit peu en sur-régime, hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein, mais quand tu vois certains joueurs, ils sont quasi méconnaissables d'une saison à l'autre, même individuellement. Comme quoi le collectif, la confiance, voilà, ça t'apporte énormément sur une saison. Mais voilà, après, c'est aussi le travail qui est bien fait. Attention, comme on dit aussi, sur la saison qui suit, quand on est une équipe ou un club qui n'est pas habitué à jouer ce genre de compétition, souvent c'est un petit peu compliqué. Mais bon, en tout cas, qui profite aussi de cette excellente saison.
Coup d'envoi de Brest-Nantes à 21h sur AMC, à 19h. Il y aura aussi de la Ligue 1 dans Stephen Time avec le match entre le Football Club de Metz et le Stade Rennais. Un point sur notre direct en cours entre Monaco et Clermont. Le temps, le score à Louis II, Valentin Jamin, Maxime Tilliette.
La 32e minute de jeu, 1-0 pour l'AS Monaco. Un but de Minamino au quart d'heure. Et on va dire qu'il ne se passe plus grand-chose depuis. 1-0 pour Monaco.
Et bon, on va profiter pour faire une petite pause et revenir dans un instant avec Sébastien Piocelle dans l'Intégral Sport. 17h32 sur RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Sébastien Piocelle, le dernier quart d'heure de cette première mi-temps entre Monaco et Clermont. Sachez que si vous nous rejoignez, Auxerre s'est imposé face au Paris FC 2-0. Auxerre quasiment, Sébastien, en Ligue 1. Ils ont 6 points d'avance, il reste 6 points à distribuer.
Quasiment.
Quasiment. Ils ont une différence de but de plus 20 par rapport à leur adversaire direct, qui est Angers. Bon, ça sent quand même très très bon. Voilà, on peut pas le dire parce que mathématiquement il y a ces 20 buts, mais c'est quasi fait pour Auxerre.
Je le dis, en Ligue 1,1, alors on disait tout à l'heure hors antenne. Non, oui, c'est vrai, ça vient clôturer une très très belle saison des Bourguignons. Et puis surtout, on sait la difficulté quand tu descends de Ligue 1 à Ligue 2 de remonter de suite, parce que tu es attendu au tournant, parce que mentalement tu es un petit peu aussi atteint. Ils ont fait le job. Alors on attendra peut-être même ce soir en fonction du résultat de Saint-Etienne pour fêter
ça. L'égalisation de Clermont sur ce ballon qui avait été récupéré au parc Greg John Kay. Il lance sur la droite Virginius qui provoque, qui centre dans les 6 mètres. Et je crois bien que c'est Cham qui vient couper ce ballon et le propulser dans la cage de Mayeki. Et donc Clermont répond à Monaco. Un partout après 35 minutes de jeu.
Ouais, les Monégasques sanctionnés d'avoir un petit peu levé le pied depuis leur ouverture du score signé Minamino. Et c'est plutôt mérité pour les Clermontois qui avaient montré de jolies choses mais mal négocié les coups. Là, cette fois-ci, ça a été parfaitement conclu par Mohamed Cham, très précieux, qui a bien coupé au second poteau. Et Hakim Benalage qui siffle. Non, c'est pour que tout le monde se mette en place pour relancer le jeu. 10 minutes à jouer dans cette première période et donc les Clermontois qui égalisent un partout.
Avec toujours des Monégasques et quelques travers défensifs quand même, hein, Sébastien, cette saison.
Déjà sur Virginius, je pense que Kerr peut défendre un peu mieux parce qu'il est quand même pas loin de la ligne de touche. Et puis après, le mouvement dans la surface entre les deux défenseurs, Cham, il est la seule. Alors il fait une bonne course, hein, mais ils doivent mieux faire. Cham, le meilleur buteur hein, de cette équipe de Clermont, voilà, qui vient remettre son équipe sur la bonne route.
Mais on dit les travers défensifs de Monaco cette saison, Maxime, c'était quand même un peu mieux ces derniers temps. Alors certes, il y avait eu les 3 buts encaissés à l'extérieur à Lyon, mais il y a eu quelques clean sheets. On avait parlé de Majeki, le gardien, le changement. Donc elle avait eu ses travers, cette équipe de Eddie Hutter, aller au retour de l'année civile début 2024. Mais c'était peut-être un peu moins le cas sur les dernières sorties à Louis II.
Très clairement, même à l'extérieur, hein, parce que sur les 3 dernières journées, bon, on va y venir à ce match à Lyon où ça a été un festival, mais il y a eu Rennes, Brest et Lille, 3 victoires des Monégasques sans encaisser de but. Donc ça a vraiment apporté beaucoup de confiance en cette fin de saison. Le week-end dernier à Lyon, au final, ça fait 3-2 pour l'OL. Mais avant ça, c'est vrai que les Monégasques s'étaient très clairement rassurés. Là, Wilfried Tsingo, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait innocent, hein, parce qu'il il laisse totalement seul Mohamed Cham arriver sans se préoccuper de ce qui se passe dans la surface, mais juste en regardant le ballon. Donc il y a de quoi être frustré, d'autant que depuis l'intronisation en tant que numéro 1 de Radek Majeski avant ce match à Lyon, eh bien les Monégasques avaient été restés invaincus. Et là, c'est vrai que c'est un petit coup d'arrêt, d'autant que là les Clermontois encore proposent du jeu.
Virginius qui va essayer de percer plein axe, il a été contré par Kerrer, mais c'est le Anderson. La transverse a tout de même à l'opposé d'un Clermontois pour aller trouver dans la surface Bella. Bella qui va crocheter. Intervention de Vanderson, le Brésilien, pour sortir ce ballon avec Fofana devant lui et peut-être un contrat négocié puisque Ben Yedder va passer le milieu de terrain légèrement côté droit. Il élimine Gassien. Il la met sur sa droite à Vanderson. On va être proche de la surface sur le côté droit. Le centre vers Minamino qui va pouvoir s'en saisir malgré une déviation de Cham. Minamino qui n'est pas très loin non plus de la surface cette fois, complètement côté gauche. Et on va calmer tout ça pour les Monégasques. Ils ont la 7ème défense seulement de Ligue 1. C'est pas énorme pour une équipe qui vise la 2ème place. Donc c'est aussi les travers dont vous parliez, messieurs. Effectivement, Monaco prend trop de buts et on le voit cet après-midi puisqu'il y a un partout alors que la SM avait ouvert le score, même si là on combine en entrée de surface. Mbolo, ça fait 2. Mbolo servi par Ben Yedder qui vient marquer et fêter son grand retour comme titulaire. La réponse Monégasque n'a pas été longue. Les jeux dans les petits espaces, la technique et le but sur cette frappe croisée de Mbolo à droite de la surface. 2-1 pour l'AS Monaco.
Elle est belle l'histoire. 412 jours après sa dernière titularisation pour l'AS Monaco, lui qui s'est fait les croisés en tout début de préparation. Et devinez, face à qui avait-il mis son dernier but en Ligue 1? C'était face à Clermont. Et voilà que le Suisse récidive pour son retour et permet donc à Monaco de repasser devant.
Ouais, pas le temps de douter, mais on parlait tout à l'heure des passes dans l'axe. Encore une fois, sur cette action-là, la passe qui fait mal entre les lignes, et puis après, ça combine bien. Et Mbolo, on connaît sa qualité devant le but. Mais voilà, là aussi, du côté de Clermontois, on parlait
quel
de la défense
de
monégasque.
Ben
mais on avait dit tout à l'heure que la doublette Mbolo-Ben Yedder avant la blessure aussi, c'était déjà top.
Ouais, et c'est dommage parce qu'il ne reste plus que 3 matchs en quelque sorte, du coup Issam Ben Yedder est en fin de contrat. Là, cet enchaînement, la remise en une touche, puis derrière il se retourne et glisse le ballon entre les jambes du défenseur. Issam Ben Yedder, c'est très bien fait, lui qui est le deuxième meilleur buteur de l'AS Monaco, à égalité avec Lucien Cossou avec 115 buts. Il peut devenir le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire du club tout de même, l'AS Monaco. Et attention, il va y avoir encore une occasion là à droite.
Fofana, il a trop poussé son ballon sur une récupération haute, mais s'il est clairement tout à se mettre dans la difficulté eux-mêmes, ça va être difficile. D'ailleurs, il va jouer la touche rapide, Fofana vers Akliouche. On est côté droit, pas très loin du poteau de corner. L'international espoir a un petit peu perdu le contrôle du ballon. Il va obtenir une touche qui était sympa aussi, c'est de voir tout le banc féliciter Mbolo et puis même des joueurs en tribune. Je vois Ismaël Jacobs qui est devant nous, qui n'est pas disponible pour cette rencontre, blessé. Il était super content de voir son copain marquer. Donc Brahim Mbolo qui permet à Monaco de mener 2-1 alors qu'on va bientôt arriver dans la 40e minute de cette partie face à Clermont.
C'est vrai que Brahim Mbolo a un côté homme providentiel avec son retour, mais c'est un profil d'attaquant que l'ASM n'avait pas tout au long de cette saison. Seb, c'est vraiment l'avançant qui percute, puissant, physique.
Ouais, et puis qui est hyper intéressant aussi dos au jeu. Forcément, ça a été un manque, même si ils avaient d'autres atouts offensifs. On a pu le voir tout au long de la saison. Mais en tout cas, pour la suite, même si ça sera sans Ben Yedder, et voilà, et forcément que ça devrait redevenir un titulaire en puissance la saison prochaine.
Tu disais, Maxime?
Ouais, Follarine Balogun ne s'est pas imposé, il a mis 8 buts, lui qui était arrivé du stade de Reims, et on attendait peut-être davantage de sa part, c'est même certain. Il a eu l'opportunité de se montrer, n'a pas totalement convaincu jusqu'ici, et bien Brahim Mbolo est de retour, à lui de confirmer, à condition évidemment que son corps le laisse tranquille et qu'il puisse enchaîner les performances.
Ils ont du mal à sortir là, les Clermontois pressés, notamment Minamino. On sait qu'il aime bien aussi faire ce travail défensif, il est allé gratter une touche dans les pieds d'Andy Pelmar dans le camp de Monaco. Ils ont mis l'intensité, les Monégasques, qui a eu un vrai creux et ils ont encaissé ce but, mais les revoilà d'attaque pour poursuivre leur série, eux qui avant cette défaite à Lyon restaient sur 4 succès encore dans la surface quasiment. Fofana, le ballon a failli filer devant lui pour Mbolo encore, mais une intervention clermontoise à l'entrée de la surface permet aux Auvergnats de se dégager, mais pas pour longtemps puisque les rouges et blancs de Monaco sont tous dans le camp des hommes habillés en noir de Clermont qui subissent sur cette fin de première période. Et ce ballon qui circule tranquillement dans les pieds des hommes d'Adi Hutter qui va accélérer, même c'est l'équipe Monégasque, il y aura une faute, une très bonne faute à 30 mètres de la cage de Moridio, obtenue par Brel Mbolo, le Suisse, donc buteur il y a quelques instants. 41e minute de jeu, 2-1 et coup franc intéressant à venir.
Mado au jeu, il s'est parfaitement retourné. En revanche, il s'est fait chipper sa chaussure. Le crampon est resté au sol. Et Hakim Ben Elhadj a bien vu, ça va donner un bon coup franc là, très bien placé. Allez, à une trentaine de mètres, légèrement excentré sur la droite ou sur la gauche, si on est à la place du gardien clermontois Moridio, qui voit visiblement. Là, il y a 4 joueurs monégasques autour du ballon. Ça laisse du choix. Est-ce que ça discute? Non, il y a Mohamed Camara qui va s'enlever. Il reste plus que Ben Yedder, Akliouche et Diata pour se saisir du ballon.
Pour un pied gauche, ça coûte arrêté. Sébastien.
Ouais, je pense, ouais, après à voir, ouais, je pense que pour un pied gauche, mais il tentera pas directement, je pense.
Et d'ailleurs, tu m'as mis le doute tout à l'heure, Seb, mais Minamino est bien droitier. Hein, sur son enroulé, c'était naturel lorsqu'il a ouvert le score. D'accord, en allant chercher la lucarne.
Le coup franc à venir après 40 minutes de jeu. C'est le pied droit, finalement, créé par Diatta qui a essayé un petit centre. Deuxième ballon pour les Monégasques. Ouais, il valait mieux le pied gauche à Cléouche parce qu'il n'a pas passé le premier rideau. Est-ce qu'il y aura un contre Clermontois? Non, ils n'arrivent vraiment pas à sortir, les Clermontois. Et Monaco donc récupère cette balle tranquillement au milieu du terrain pour conserver cet avantage d'un petit but. Donc 42e minute de jeu, 2-1. Pour l'AS Monaco qui avait ouvert le score, qui a vu Clermont revenir et qui vient de reprendre les devants grâce à Brel Mbolo.
Valentin Jamin, Maxime Tillieta, Louis II, la fin de cette première mi-temps évidemment dans l'Intégral Sport sur RMC jusqu'à 19h. Sachez que dans 20 minutes vous pourrez suivre la course sprint à Miami. C'est de la formule, attention, nouvelle attaque monégasque. Valentin
Mbolo dans la surface côté droit, il la met en retrait vers Minamino. Il réclame une faute, il a été accroché, pas de pénalty. Ben Yedder peut recentrer vers Minamino, l'arrêt de Moridio sur cette frappe du gauche de Minamino à 7-8 mètres de la cage. Moridio en deux temps a pu capter, mais la technique dans les petits espaces, c'est ça qui fait vraiment mal à Clermont.
Ouais, ils arrivent à se trouver, à combiner là, Mbolo, Ben Yedder et Minamino à la conclusion. Et très gros arrêt je trouve de Moridio parce qu'elle était déviée juste à peine par Maximiliano Coffrier. Il a su se saisir en deux temps du ballon Moridio, et heureusement parce qu'à 3-1 ça aurait été bien plus compliqué à la mi-temps.
Il y avait un
tout
dans cette action aussi parce qu'au départ de l'action c'est justement un relais avec Ben Yedder dans la profondeur, et après on voit aussi l'intelligence d'Mbolo pour attendre ses coéquipiers. Ouais, c'est vraiment complet hein, quand les deux joueurs sont alignés devant.
Et Balogun est sur le banc, on le disait, il y a une vraie force offensive. Alexander Golovin, fin de saison, il s'est blessé à la cheville, hein, c'est ça Maxime?
Exactement.
Donc il y a quand même des gros atouts pour les Monégasques. Et il y a eu beaucoup trop de blessures aussi cette saison pour qu'on puisse avoir l'effectif ensemble.
Blessures, la CAN aussi et la Coupe d'Asie au même moment, qui ont envoyé 6 joueurs, 6 titulaires en déplacement. Donc ça complique les choses.
Corner, Clermont, toi de la gauche vers la droite. Il est tiré la tête de Coffrier qui va passer juste au-dessus. Sur le contre, ils avaient obtenu le corner, les hommes de Pascal Gatien. Et Mohamed Chan avait trouvé la tête de Coffrier, le Belge, voit ce ballon partir au-dessus, et dégagement à venir pour Majewski, le gardien polonais de cette formation qui s'est imposée depuis 9 matchs maintenant dans la cage monégasque. Donc, et ce léger avantage qu'on va essayer de préserver jusqu'à la pause dans une toute petite ambiance. Il faut bien l'avouer, à Monaco Clermont sous le soleil un samedi après-midi.
6000 personnes, dont 2000 enfants invités, des licenciés des clubs aux alentours dans la région et en Italie.
Ça ramène pas énormément de monde. Est-ce que Monaco va se créer une dernière situation? Le ballon mis dans la surface par Vanderson, une sorte de transversale qui a été repoussée par une tête clermontoise, mais ils ont du mal à sortir. On repasse par Moridio du côté de Gatien, obligé de dégager le portier directement vers Thilo Kehrer dans le rond central. Il a manqué sa transmission, Kehrer, Gatien a surgi, mais la passe est imprécise. Il y a beaucoup de déchets techniques quand même côté clermontois. On va repasser de nouveau par Majewski pour l'AS Monaco. Il cherche une solution, n'en trouve pas tout de suite, et le dégagement du portier polonais direction Mbolo. Et là, il a intéressant aussi. Qu'est-ce parce qu'il a réussi à conserver le ballon dans la surface. Il a essayé de trouver Magnès Akliouche.
Il perd quasiment jamais le ballon quand il est dos au jeu comme ça. Là, c'est vraiment une solution aussi. Hein.
Il gagne une faute Brel Mbolo alors qu'on va bientôt entrer dans le temps additionnel de cette première période. Coup franc dans le rond central pour des Monégasques qui iront à Montpellier et qui recevront le FC Nantes pour terminer leur saison. Donc il y a quand même peut-être de quoi faire un 9 sur 9 pour Monaco en tout cas.
Ouais, peut-être pas sûr sur la dernière journée quand même. Pas sûr.
Bah c'est à l'ogre nantais.
Je vous laisse faire vos petits calculs.
Ouais, mais ils seront déjà deuxième à ce moment-là, sûr.
Voilà, c'est pas dit.
Tu te rassures, Seb? Non, j'ai l'impression.
Mais TJ Savanier sera suspendu pour le Montpellier-Monaco.
Ben Yedder côté gauche de la surface de réparation. Il a essayé de centrer, c'est repoussé. On réclame une main, pas de main d'Andy Pelmar selon M. Ben Eladj. Et les Clermontois essaient de ressortir proprement avec Gassier. Oh, la passe plein axe interceptée par Fofana qui peut trouver devant lui Mbolo. Mbolo, Fofana, on est à 25 mètres, légèrement sur sa droite. Fofana vers Camara maintenant. Encore à droite avec Vanderson, il n'y a pas beaucoup d'espace. On repasse par l'axe et 3 minutes de temps additionnel. Minamino, entrée de surface, la frappe et l'arrêt de Moridio. Il y a énormément d'espace dans le cœur du jeu, tu as raison. Il y a énormément d'espace et ils s'en servent très bien. Notamment Minamino, corner à venir.
Parce qu'ils bougent beaucoup, hein, les Minamino, les Akliouche qui viennent se positionner dans le dos de Gatien et Magnin. Ils ont vraiment du mal à garder ces joueurs sous contrôle, qui bougent énormément. Quand c'est pas Ben Yedder ou Mbolo qui dézone ou qui décroche, c'est Akliouche ou Minamino. Et là, Minamino, encore une fois, a pu armer sa frappe. Cette fois-ci, elle était tendue et sèche. Elle a été repoussée en corner par Moridio.
Il manque, ça manque d'impact, effectivement. Peut-être aussi de communication. communication. On rappelle que Mats Simak s'est imposé en charnière à Clermont et prêté par Monaco, donc il ne joue pas ce match.
Il est là. Il ouais, observe juste en dessous. Ouais.
Corner joué rapidement. On est passé en retrait. Crépin-Diata, le centre un petit peu enveloppé, repoussé par une tête clermontoise, celle de Gretjon qui a eu deuxième ballon à Kliou sur le côté gauche de la surface, en retrait vers Minamino, le centre. La tête est croisée de Kjaer qui était parti presque célébrer son but, mais ça va frôler le poteau. On était tout près du 3-1. Ça fait toujours 2-1. Il reste 2 minutes.
Bougé, hein. Morito, il a regardé le ballon. S'il est dedans, c'est exactement pareil.
Le bon jeu de tête de Thilo Kjaer, et je l'ai vu partir, elle a quasiment célébré au point
de. Il était même dépité au final de voir le ballon passer à côté, ça doit lui tenir à cœur. Lui qui vise l'Euro en fin de saison avec l'Allemagne, qui est venu ici pour se relancer, prêté par West Ham, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Thilo Kjaer, qui a connu des hauts et des bas, mais qui aura quand même réussi à stabiliser un petit peu sur certaines séquences cette défense de AS Monaco, notamment quand il y a eu pas mal de blessures.
Il a réussi quand même à être suspendu deux matchs, hein, en étant arrivé cet hiver. C'est un garçon qui est aussi dur sur
à l'image de l'AS Monaco, ouais, qui prend beaucoup de cartons.
Pour moi, la bonne surprise, c'est quand même Singo, hein. Franchement,
c'est un joueur très
que ce
fort.
Soit dans l'axe ou par moment latéral droit, c'est très très fort.
Très bonne pioche venue d'Italie.
Torino cet été qui est parti aussi pendant la CAN, qui a manqué
et qui est revenu avec le trophée.
Qui est revenu avec le trophée mais qui a manqué à Monaco
et qui s'est imposé. Bon, qui a été très bon en revenant, parce que c'est pas le cas de tous les joueurs.
C'est vrai.
Et qui apporte aussi dans ce groupe-là une vraie joie de vivre, qui est un joueur très précieux, comme un Brel Embolo, hein, que Adi Hütter avait réintégré au groupe avant même.
Ouh, la tête de Majeki, alors que Neto Borges avait été servi en profondeur. Il est sorti de sa surface. Ouais, grosse intervention. Deuxième ballon quand même pour Clermont, la frappe lointaine au-dessus de Cham. Mais il fallait y aller, hein, pour Majeki, qui est un petit peu
de la tête, comme ça. Il n'est pas content. Je pense qu'il aurait voulu un coup de sifflet sur parce que l'attaquant clermontois arrive peut-être avec le pied en avant.
Ça l'enlève
un petit peu.
C'est Borges.
C'est Neto Borges. Ouais.
Belle sortie. Alors que voilà, Monsieur Benelage, je fais signe au gardien polonais qu'il décompte les secondes qu'il est en train de perdre pour dégager, puisque ça s'est terminé en 6 mètres cette action après la frappe de Cham. Alors qu'on a dépassé.
Elle est pas mal, cette frappe de Cham. J'ai revu le ralenti. Elle est pas si loin que ça.
C'est vrai qu'elle retombe un petit peu à la fin et avec la perspective.
T'es sûr, Majeski, en tout cas.
Ouais, sur très sûr, hein. Très sûr de lui, alors qu'elle passe pas si loin. 45 minutes de jeu et 3 minutes en plus, c'est terminé. 2-1 pour l'AS Monaco à la pause face à Clermont. Ouverture du score de Minamino. Cham avait égalisé à la 35e et Embolo de retour comme titulaire a marqué 2 minutes plus tard. L'AS Monaco pour l'instant conforte sa place de deuxième et Clermont a presque, au moment où on parle, un pied en Ligue 2.
Et tu peux rajouter peut-être un ou deux orteils quand même. Merci Valentin, merci Maxime. Sébastien, ton avis sur cette première mi-temps? Avantage logique pour l'ASM.
Ouais, avantage logique, même si les Clermontois, ils n'ont pas démérité avec le ballon. Ils ont tenté certaines choses. Après, il y a trop d'espace entre leurs lignes, notamment dans l'axe, qui à chaque fois, ils ont été mis en danger par le talent offensif des Monégasques. Mais on a vu aussi les travers de Monaco, c'est-à-dire que quand ils mènent au score, par moment, voilà, ils ont tendance un petit peu aussi à se relâcher défensivement, à laisser un petit peu aussi des espaces aux adversaires. Et puis ils ont été punis. Heureusement qu'ils ont marqué ce deuxième but rapidement, mais bon, ça devrait être assez simple pour eux de gérer cette deuxième période.
Et pour l'instant, l'ASM compte 5 points d'avance sur Brest, qui jouera tout à l'heure face à Nantes. Match que vous pourrez suivre à 21h sur RMC. Et nous, on parie sur cette deuxième mi-temps de Monaco-Clermont.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Yoann Guillet de retour. Salut Yoann.
Salut messieurs.
Salut Yoann. Bravo.
Monaco toujours favori.
Bravo pour ton My Match.
D'avant,
ouais. Évidemment.
Monaco. Alors pourquoi vous féliciter là?
Parce que Seb Piocelle a fait passer un My Match à 9 sur le Havre Strasbourg.
Avec ce but d'André Ayou à la fin. Merci Dédé.
Bravo Seb.
Non, là je le félicite par rapport à ce qu'il a dit.
J'ai annoncé Mbolo buteur pour sa première titularisation.
Bravo. Alors continuez de nous donner de bons conseils.
Et c'est parfait messieurs, les codes sèches déjà qui sont évidemment extrêmement déséquilibrés. 1-13, la victoire de l'AS Monaco, le nul est à 6-25, Clermont est à 17. On était tous les deux plutôt d'accord sur Ben Yedder. Il est coté à 2,80.
Prochain buteur, moi, Ben Yedder.
Ben Yedder prochain buteur, c'est 5-10.
Voilà, prochain moi carrément.
Et voilà.
C'est pas mal, merci Yoann.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est le moment vous avez entendu l'alerte, inscrivez-vous pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes pour PSG Dortmund. Gagnez vos places pour le match qui aura lieu mardi. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG au 7-32-16. PSG, les lettres, tout simplement, au 7-32-16. On revient dans un instant, l'intégral sport avec la deuxième mi-temps de Monaco Clermont et vient de s'installer dans le baquet RMC ici. C'est Jean-Luc Roy, puisqu'il y a la course sprint à Miami. Top départ dans 10 minutes avec Max Verstappen qui a signé hier la pole position de cette qualif sprint. À tout de suite dans l'intégral sport sur RMC.
RMC, intégral sport.
Arnaud Valadon.
Sébastien Piocel, vous êtes bien sûr RMC, on est ensemble jusqu'à 19h. On suit Monaco Clermont 2-1 pour l'ASM à la pause face à Clermont, dernier de Ligue 1. Tout à l'heure, Le Havre a fait une belle opération en vue du maintien avec cette victoire à domicile, 3-1, presque la place de barragiste assurée au minimum pour les Havrais. Il faudra notamment attendre Metz-Rennes à 19h et Brest-Nantes à 21h, match que vous pourrez suivre. Sachez aussi que Auxerre s'est imposé tout à l'heure à domicile face au Paris FC 2-0. Les Auxerrois quasiment en Ligue 1, 20 buts de différence, la différence de but d'avance sur Angers et Saint-Etienne qui joue tout à l'heure. Si Saint-Etienne perd, Auxerre officiellement Ligue 1 et presque officiellement champion de Ligue 2 aussi. Coup double hein, pour les Auxerrois, ça serait mérité.
Je me demande s'ils vont monter, ouais, finalement.
Et nous, Jean-Luc Roy est là. Il est monté dans son baquet, il est prêt, la gomme est chauffée. Salut Jean-Luc.
Et salut Arnaud, salut Seb, bonjour salut à tous.
Format sprint dans quelques instants, on ne ratera pas le départ avec, bah, pas de suspense, Max Verstappen en tête.
Bah, c'est surtout ça qu'il faut pas rater, hein, c'est le départ. Parce que, bon, après, il y aura quand même 19 tours. Effectivement, c'est une nouvelle fois Max Verstappen qui a signé la pole. Alors, on rappelle quand même qu'en Chine, c'est lui qui a remporté la course sprint, mais en partant quatrième. Donc, c'est possible aussi, même si sur ce circuit, sera un petit peu plus difficile de dépasser, dans la mesure où il y a des murs, on le sait partout. C'est un circuit où la moindre faute coûte très très cher, même si, et là aussi il y a toujours des contre-exemples, Charles Leclerc est parti en tête à queue au tout début de la FP1. Il n'a rien touché, alors il a perdu le bénéfice de...
Il a fait embouteillage, comme sur le périphérique.
Oui, la marche avant, marche arrière, on n'a pas trop compris. Mais bon, il s'est vachement bien rattrapé, hein, justement, puisque là, il part sur la première ligne, aux côtés de Verstappen, devant Pérez et devant Ricciardo, la grosse surprise.
Allez, on revient dans un instant pour ne pas louper le départ de cette course sprint à Miami. Il y aura les qualifs à 22h, là, pour le Grand Prix, celui qui compte, là, j'ai envie de dire. Absolument, nous on part pour 19 tours dans un instant. On revient tout de suite sur RMC, ne bougez pas.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Vous êtes bien sur RMC, vous avez fait le bon choix, l'Intégral Sport jusqu'à 19h. À 19h, Stephen Time, votre rendez-vous tous les samedis, Stephen Brun et Benoît Boutron. Dans un instant, la deuxième mi-temps de Monaco Clermont, Monaco qui mène 2-1. On vient de dégager la piste, c'est à Miami, il est avec nous, on a de la chance, c'est Jean-Luc Roy, Sébastien Piocel évidemment toujours là pour la Ligue 1. Jean-Luc, oui. Avec le tour de formation de ce format sprint. Ici à Miami aux États-Unis, il fait bon à Miami à cette période. Et tu vas me dire qu'il fait toujours bon à Miami.
Il fait très souvent beau à Miami, mais là il fait particulièrement beau. Bah ça c'est la saison idéale, hein, parce que là il n'y a pas trop d'humidité. On sait que c'est un climat tropical. Dans quelques semaines, la pluie va tomber à peu près chaque jour, et là l'humidité va grimper jusqu'à 80, 90, 95%. Alors il fait chaud. Hein. On se rappelle que les deux premiers Grands Prix, les pilotes ont été éprouvés parce que le circuit est assez intéressant. Je dois reconnaître que moi aussi j'étais assez sceptique. Il est tracé, on le rappelle, sur le parking du Hard Rock Café,
le stade de football, stadium, de football, voilà, américain.
65 000 spectateurs, qui est à environ à 25 km au nord de Miami. Mais ils ont fait du bon boulot. Il y a un ou deux virages qui sont un petit peu critiquables, mais bon, ça peut pas être parfait. Et les pilotes l'apprécient parce que il y a pas mal de courbes à moyenne et haute vitesse. C'est ce que les pilotes aiment. Hein. Les petits coins tordus, c'est jamais très intéressant, ni pour eux ni pour nous d'ailleurs. Alors maintenant, va-t-il être possible de dépasser parce que les murs sont très très proches? Ça, c'est toute la question. Au niveau des pneumatiques, si tu permets juste une précision, tout le monde en médium, on s'y attendait un peu, sauf Yuki Tsunoda qui partira 15e sur la grille avec sa RB Team qui est en soft, et Logan Sargeant, et là aussi lui c'est vraiment, il joue à domicile, hein. Il est de Floride, il est de Miami, Logan Sargeant, et on sait qu'il joue son baquet.
Et que c'est important, voilà, pour un pilote américain aussi, un peu de briller. On parle, hein, de Andretti, d'arriver, plus de courses aux États-Unis, Las Vegas, etc. Bon, Max Verstappen est là, les Ferrari aussi en embuscade, et Daniel Ricciardo peut-être la bonne surprise, hein, de cette qualification sprint.
Ah bah lui aussi, il joue sa survie en Formule 1, soyons très clairs. On l'a fait revenir, donc on s'en rappelle un petit peu l'an dernier, puis malheureusement il s'est blessé rapidement, c'était aux essais en Hollande, donc il a été remplacé, et en plus il a été remplacé par Liam Lawson qui a vraiment explosé, parce que lui n'avait pas l'expérience, il a démontré le potentiel, on l'a gardé quand même dans l'écurie par respect, et puis c'est un pilote rapide, et là il le démontre enfin, je dirais, parce que jusque-là il a été dominé par Yuki Tsunoda, et c'était pas bon pour lui, puisque lui il vise le baquet de Perez, pour être très clair, il aurait envie de remonter au niveau de Red Bull, jusque-là c'était absolument insensé, ben ma foi, s'il commence à aligner des performances comme celle-là, parce que là, quatrième, il faudrait qu'il refasse la même chose, mais pour la vraie grille, tu me vois venir là dans 2 heures maintenant, 4 heures pardon, tout à l'heure pour les qualifs, à 22h ça sera en direct sur RMC.
Oui, parce qu'on rappelle maintenant les qualifiés, il y a des qualifications propres à la course sprint et propres à la course F1, on garde juste les points pour cette course sprint de 19 tours et les monoplaces qui arrivent après ce tour de formation, Max Verstappen en tête, le premier, un circuit qu'il adore et on voit, puisqu'on parle beaucoup plus en dehors de la piste, oh, que oui, sur la piste, Adrian Newey, l'ingénieur historique de Red Bull, monsieur héros, un des plus grands ingénieurs, je pense,
hein,
de l'histoire, oui, de la F1, qui va quitter cet officiel, peut-être pour Ferrari, c'est la grosse tendance, mais en tout cas, il va quitter Red Bull, ça c'est sûr.
C'est sûr que Ferrari est en pôle, j'allais dire, pour le recruter, mais Mercedes lui a fait un pont d'or, on ne sait même pas de combien. Là, on dit qu'il touche à peu près 10 à 12 millions de dollars par an chez Red Bull. Il est évident que, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Moi, je le connais bien, Adrian Newey, c'est un type formidable. Et il est passionné avant tout. Moi, je pense qu'il va prendre un petit break. Et s'il revient, il a 65 ans, hein, quand même. Et il a beaucoup donné, il l'a dit lui-même, il est épuisé. Voilà. Les pilotes maintenant sous les ordres du starter. On va allumer naturellement les feux rouges. On rappelle la première ligne avec Verstappen en pôle, Leclerc à ses côtés avec la Ferrari. Deuxième ligne, Perez avec l'autre Red Bull. Et puis Ricardo, on vient d'en parler, avec la RB. Carlos Sainz avec la Ferrari, cinquième, avec Oscar Piastri à ses côtés. Et on voit qu'un des pilotes va s'élancer depuis la voie des stands. C'est peut-être Bottas qui a subi une pénalité. Donc Bottas, non, c'est pas Bottas, autant pour moi, c'est peut-être plutôt Albon qui partira. Et voilà, c'est parti pour 19 tours avec Verstappen qui tente évidemment de fermer la trajectoire. Va-t-il réussir? Oui, pour le moment, c'est, Leclerc est à l'intérieur. Ça passe également bien pour Leclerc. Un excellent départ pour Ricardo qui est actuellement troisième et qui est parvenu donc à devancer Sergio Perez, semble-t-il, à confirmer maintenant. Mais et drapeau jaune. Alors ça a frictionné derrière. On n'a pas vu exactement à quel niveau, mais apparemment il y a eu un contact derrière qui a entraîné ce drapeau jaune là. J'ai peur que ce soit Lando Norris qui a été pris dans un accrochage, puisque je le vois très très loin là, et drapeau jaune donc dans le premier
secteur. Norris semble être arrêté effectivement, ouais. Après la première courbe, juste après le départ, il vient de le dire à la radio, voilà. Je suis dehors, j'ai été touché.
Exactement. Stroll également est dernier pour le coup sur la piste, et puis on a Albon, mais devant, eh bien je l'ai dit, Verstappen a conservé l'avantage de sa pole position devant Charles Leclerc, deuxième. L'excellent départ une nouvelle fois de Daniel Ricciardo qui joue une nouvelle fois sa place et peut-être même sa carrière. Perez est quatrième, Sainz cinquième, Piastri sixième, Hülkenberg septième devant Magnussen qui a pris un très bon départ, il est huitième, Hamilton en revanche c'est moins bien, neuvième, Tsunoda dixième. Du côté des Français, on a Ocon et Gasly onzième et douzièmement. C'est plutôt un bon départ d'ailleurs pour Esteban Ocon qui est
safety car, Jean-Luc, qui vient d'être déclenché, donc la course partiellement neutralisée. On revient te voir dans un instant. Coup d'envoi donné de cette deuxième mi-temps entre Monaco et Clermont. On est avec Sébastien Piocel aussi dans l'Intégral Sport et au commentaire à Louis II, Valentin Jamin, Maxime Tillette.
Parti depuis 40 secondes dans ce second acte. Toujours 2-1 pour l'AS Monaco, notamment grâce à un but de Brel Embolo, corner de la gauche vers la droite directement là pour l'ASM, tiré par Akliouche. Tête de Fofana au second poteau, coupé finalement par un Clermont. Toi, deuxième ballon, ça traîne dans la surface. Ben Yedder, puis Kerrer, puis 3, Minamino, 4, puis Fofana. 5, tout ça est contré. Non. Est-ce que Singo va frapper? Évidemment, oui. Juste au-dessus,
corner.
Elle était jolie cette frappe de Wilfried Tsingo qui est passée juste au-dessus et visiblement Maurizio ne l'a pas dévié. Et on réclamait notamment une main, Maxime, sur la frappe de Minamino.
Sur celle de Minamino, c'est la 2, 3, 4, la 4ème, je crois. Parce qu'il y a eu 5 frappes coup sur coup, toutes contrées ou la dernière.
Ouais, il n'y a pas main.
Non, elle est collée. Ça aurait été très, très, très dur.
En tout cas, ils ont compris. Ils mettent du monde dans l'axe, là. Du coup, ça contre.
T'étais dans le vestiaire ou pas?
J'étais pas dans le vestiaire, mais bon, en tout cas, sur les attaques ou placées ou rapides, ils savent qu'il faut qu'il y ait du monde devant leur défense, sinon ils vont lutter en deuxième mi-temps aussi.
Il faut marquer vite parce que l'AS Monaco, au moment où l'on se parle, a 5 points d'avance sur le 3ème Brest. Hein, on va dire que c'est quasi la deuxième place assurée à deux journées de la fin si on en reste là pour l'AS Monaco. Donc très très important ce résultat pour l'instant pour les hommes de Adi Hutter qui n'ont qu'un petit but d'avance et on a vu qu'ils pouvaient être un petit peu friables défensivement, même si pour le moment tout se passe dans le camp clermontois avec cette touche à venir côté gauche de Crépin Diatta. Aucun changement donc à la pause. Et on n'en a pas trop parlé, Maxime, mais beaucoup d'absents encore aujourd'hui à Monaco. On a parlé de l'absence sur toute la saison, mais aujourd'hui, il manque du monde, évidemment.
Bah, Alexander Golovin qui s'est fait une cheville. On a également Ismail Jacobs qui est out jusqu'à la fin de saison. Denis Zakaria, ça fait déjà un joueur par ligne. Caio Henrique est de retour. Hein. Il est dans le groupe là cet après-midi. Peut-être jouera-t-il ses premières minutes. Lui qui n'a disputé que 6 matchs en tout début de saison avant d'être touché au ligament du genou. Donc, Adi Hutter a dû un peu composer comme ça toute la saison, s'adapter. Bon, finalement.
Il est passé de Cham, il a devancé à la course Kerrer côté droit dans la surface. Ouh. Il s'effondre, c'était peut-être plutôt Virginius d'ailleurs. Et il a été accroché peut-être par le bras, mais pas assez pour que M. Ben Eladj ne le sanctionne, Thilo Kerrer. Et ce sera un 6 mètres avec cette course en profondeur de Virginius. Mais alors Kerrer, il s'est fait manger là en vitesse.
Ouais, après, il s'est bien
ouais,
repris.
C'est ça, c'est le jeu de corps est bon. Ouais. Juste ce qu'il faut avec le
ouais, c'est juste ça. Pour revenir aux absents, et du coup là on parlait de couloir gauche, c'est vrai que j'ai été surpris de voir Crépin Diatta ouais. À gauche. Alors,
il a
déjà dépanné à droite, mais c'est vrai que à la base c'est quand même un joueur plutôt milieu offensif.
C'est plutôt un ailier droit qui joue maintenant arrière gauche.
Voilà. Comme quoi il faut quand même bricoler hein, du côté de
ouais. Ouais, bah il y a Kassou Ouattara qui est là pourtant sur le banc de touche, qui est arrivé Damien, qui a été plutôt intéressant, mais bon Adi Hutter a plutôt été satisfait ces dernières semaines de ce qu'a pu faire sur certaines séquences Crépin Diatta à ce poste. Offensivement aussi ça permet d'apporter quelque chose d'un petit peu différent avec le Sénégalais.
Puis Maxime parlait de l'indiscipline monégasque, on a Ben Seguir là qui est suspendu aujourd'hui et puis Singo ah oui. Qui revient de deux matchs de suspension parce que ça s'était
ils avaient pris rouge tous les deux à Brest, c'est ça ouais. Sur des gestes d'humeur hein, ils menaient 2-0 dans un match super important dans leur saison, très fort d'aller gagner là-bas à Le Blé qui n'avait plus été les Brestois n'avaient plus été battus depuis la venue du Paris Saint-Germain fin octobre, donc c'était vraiment un très gros résultat là-bas, mais malgré cela bah, sur la fin de rencontre il y a eu de la nervosité et deux Monégas qui prennent des rouges sur des gestes d'humeur ça peut être handicapant sur cette fin de saison. Pour le moment ils s'en sortent mais c'est vrai que c'est dommage pour eux.
Coup franc au milieu du terrain puisque Akliouche avait été accroché dans son propre camp, on joue court pour les Monégasques qui donc conservent la possession du ballon sous le regard de Pascal Gassia, l'entraîneur de Clermont La Placide qui ne bouge pas beaucoup. Il y a son adjoint également hein, Sébastien Bichard qui est arrivé début mars,
le co-entraîneur hein, comme
ouais,
on dit hein,
ouais, le co-entraîneur principal suite, ouais. Le co-entraîneur principal qui prendra la suite effectivement la saison prochaine puisqu'on sait que Pascal Gassia ne sera plus le coach, mais voilà il était venu Sébastien Bichard on va dire un peu plus tôt que prévu parce que c'était pas l'idée à la base d'amener on va dire un adjoint bis, enfin numéro 1 bis aux côtés de Pascal Gassien, mais vu l'urgence de la situation on avait préféré anticiper. Pour l'instant il n'y a pas eu d'effet Bichard malgré la victoire 4-1 face à Reims lors du dernier match, mais voilà il sera là la saison prochaine Sébastien Bichard et évidemment il commence à déjà connaître ce groupe qui est également construit, enfin pas construit pour la Ligue 2, mais quand on voit aussi les individualités on n'est pas choqué on va dire de voir clairement
aussi, hein.
Un petit peu galérer et le budget effectivement on en parlait en avant-match, il y a une faute là d'un monégasque sur un joueur clermontois, est-ce que c'est Greg John qui est au sol
Valentin.
Et qui va obtenir un coup franc après 51 minutes de jeu et donc ce score de 2-1 pour l'AS Monaco, le jeu est arrêté.
Alors on retrouve Jean-Luc Roy pour cette course sprint à Miami, la fin de la safety car est imminente.
Absolument Arnaud, et là on a vu clair hein, dans l'accrochage, en fait apparemment c'est Lewis Hamilton qui est arrivé comme un calu qui a pris
oui.
à l'intérieur
bombe, comme on dit, hein.
Et il a fait un strike carrément avec les deux Aston, donc Alonso s'est retrouvé en sandwich avec Stroll à l'extérieur et celui qui a payé l'addition c'est Norris. Alors abandon de Norris et de Stroll et Alonso se retrouve dernier, lui qui déjà détestait les courses sprint, ça va arranger vraiment le... Non mais c'est vrai que...
Et surtout il y a la qualification à 22h, donc si la voiture de Lando Norris est touchée
et voilà.
Les conséquences derrière Max Verstappen qui va donc pouvoir redémarrer tout le monde avec ses petits zigzags pour faire chauffer les pneus et jouer avec le peloton.
Tout à fait, nous sommes dans le 3ème tour de cette épreuve sprint qui va en compter 19 au total. Verstappen est donc toujours leader devant Leclerc, Ricciardo, l'excellent départ, Perez, Sainz, Piastri et c'est derrière donc que la collision s'est produite. Hülkenberg est 7ème, Magnussen 8ème, c'est très bon pour les deux As qui marqueraient des points, puisque je vous rappelle qu'on marque 8, 7, 6, etc. jusqu'à 1 point au 8ème.
mais là je pense, et c'est ce que disent tous les pilotes, que là on va essayer de conserver les positions. Alors Hamilton, il essaie d'aller chercher un point parce qu'il est parti évidemment sur la grille 12e, donc pour marquer un point il faudrait qu'il remonte au 8e rang, il faudrait qu'il arrive à passer Magnussen, Hülkenberg qui sont devant lui, et il est pour le moment d'ailleurs à la chasse des deux pilotes Haas. Par parenthèse, dans les nouvelles, eh bien on sait que Hülkenberg a déjà signé un contrat avec l'équipe Audi, qui viendra Audi en 2026, donc il va avoir une saison de transition, on va dire, en 2025 chez Sauber. Et pour le moment, eh bien, pas de nouvelles du côté de Magnussen et pas de nouvelles du côté de qui que ce soit. Moi, je parierais un petit peu sur un certain Oli Burman, si tu vois ce que je veux dire, puisqu'on est motorisé par Ferrari du côté de Haas, ça n'engage que moi. Et là, par parenthèse,
de l'Académie Ferrari.
De l'Académie Ferrari. Par parenthèse, la piste, on a un peu de temps là, puisque pour le moment, à part Hamilton, à l'attaque des deux Haas devant lui, eh bien, ne se passe pas grand-chose. Verstappen est en train de réaliser le meilleur temps et le meilleur tour. A priori, personne ne va le revoir. Charles Leclerc ne paraît pas en mesure de suivre, et Ricardo évidemment n'est pas en mesure de suivre la Ferrari. Donc tu vois, je pense que pour le trio tête, a priori, je ne vais pas dire que c'est joué alors que nous sommes à peine dans le quatrième tour, mais je ne vois pas de bouleversement. Peut-être Pérez va-t-il parvenir à déborder Ricardo quand même. Donc je disais, oui, du côté, on a beaucoup parlé de Andrea Kimi Antonelli, tu sais, la nouvelle perle qui a 17 ans seulement. On aurait demandé une dérogation du côté de la FIA pour qu'il puisse accéder à la Formule 1 avant 18 ans, et puis à mon avis ça passera pas, et Toto Wolff s'est dédouané de ça en disant non, nous on n'a pas du tout demandé à ce qu'il soit en Formule 1 dès cette année, donc wait and see.
Pendant des pilotes de moins de 18 ans, on en connaît un qui a brillé, c'était un certain Max Verstappen.
Il y en
était
a eu
tout jeune, même moins de 17 ans, il avait 16 ans.
Il avait 17 ans.
17
il
ans.
Avait 17 ans et demi, mais c'est justement à cause de lui, ou grâce à lui, on prend comme on veut, que cette règle a été passée par la FIA, interdisant maintenant de délivrer une super licence à un pilote de moins de 18 ans. Qui n'avait pas le permis de conduire, bah évidemment.
Évidemment, il n'y a pas
c'est
besoin.
C'est là que ça devient rigolo. Depuis le temps que je dis que... Bon, enfin, rien, non, je ne vais pas le dire.
On pourra le dire peut-être après. Le temps, le score, Monaco, clairement, Valentin Jamin, Maxime Tilliette.
La 54e minute de jeu, et Monaco est toujours devant 2-1 grâce à des buts de Mbolo et Minamino. C'est Cham qui avait marqué pour Clermont, 2-1 pour Monaco.
Mais le break n'est pas fait. On revient dans un instant avec Sébastien Piocel, Jean-Luc Roy pour la F1 et ce Grand Prix et cette course sprint. C'est pas un Grand Prix, course sprint à Miami. À tout de suite dans l'Intégral Sport jusqu'à 19h.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Et Monaco s'envole à Louis II. Valentin Germain, Maxime Tillette.
Le but de Wissam Ben Yedder. Il y a quelques secondes, opportuniste Wissam Ben Yedder sur un ballon remonté par Fofana, il sert sur sa gauche Minamino qui arrive près de la surface, il tente de trouver Ben Yedder, mais Belmar intercepte le ballon, le Clermontois enfin intercepte le dévi, mais fait une grosse boulette puisque ce ballon traîne tout de même, et Ben Yedder s'en saisit, frappe du gauche et marque son 14e but en Ligue 1, ça fait 3-1 pour Monaco.
En renard des surfaces, hein, Wissam Ben Yedder qui vient marquer son 6e but en 5 matchs face à Clermont, mais surtout son 116e but, j'ai même du mal à le dire tellement c'est énorme pour l'AS Monaco, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'ASM, juste derrière en tout cas Delionis, et ses 223 réalisations.
Ça va être dur
pour le déloger, ça va être compliqué.
Mais grosse boulette messieurs quand même dans Di Pelmar, hein, sur le coup qui fait la passe d'Est,
glisse là, quasiment un peu, j'ai l'impression,
à Ben Yedder.
Mais bon,
Il a marqué des plus compliqués, on va dire.
Ouais, voilà.
Ben Yedder, mais juste avant, il y avait eu la frappe de Bella aussi.
Ah ouais, donc, Bella en plus, c'est, pour Clermont.
C'est pour ça que pour Monaco, c'est important aussi d'avoir fait le break. Parce que
là, il va y avoir un coup franc, là encore.
Ouais. Ça fait du bien d'avoir
coup franc pour Clermont.
À une vingtaine de mètres décalé côté gauche en regardant la cage de Majeki, ce sera soit pour le pied gauche de Cham, soit le pied droit de Bella. C'est Bella qui va frapper juste au-dessus, Jérémy Bella. Et Majeki avait sauté quand même pour accompagner ce ballon. Ce sera un 6 mètres. Et effectivement, sur un contre juste avant le but, Borges avait accéléré côté gauche. Il avait trouvé Jérémy Bella qui s'était réaxé avec son pied droit et avait frappé alors qu'il y avait peut-être mieux à faire au niveau frappe. Il a mis une frappe puissante au-dessus de la cage de Majeki. Et résultat sur l'action suivante, Monaco a fait le break. Monaco mène 3-1. Monaco s'est peut-être mis à l'abri pour ce match, quasiment pour la seconde place de Ligue 1. Ce but de Ben Yedder, il est très important et il montre la forme aussi du capitaine Monégas.
Et Sébastien, Ben Yedder, prochain buteur, un équifleur, une décision qui tombe. Sébastien Piocel.
Je suis bien en ce moment.
Ah, c'est incroyable.
C'est pas toujours le cas.
D'ailleurs, Maxime, tu as fait un beau papier sur Wissam Ben Yedder et un petit peu comment il vit cette fin d'aventure monégasque, hein, en fin de contrat. Ouais. Et pas mal de choses ont changé. Hein.
notamment son agent, lui qui était associé au conseiller très influent Messa Ndiaye, et qui désormais, attention là, parce qu'il y a un bon ballon.
Côté droit, Van der Sande dans la surface, Van der Sande la frappe, elle est déviée et ça va faire but, tiens, en jeu indiqué par l'arbitre puisque c'était revenu sur la tête de Brahim Mbolo, second poteau, qui a propulsé ce ballon dans les filets de Moridio. Le pauvre Moridio, il avait été lobé.
À voir s'il était vraiment bon,
pas sûr hein. Parce que Brahim Mbolo fait non de la main. Et Moridio avait été lobé par ce ballon contré par un défenseur clermontois. On a le ralenti sur le jeu, il y a clairement en jeu. Et donc, but justement annulé. Toujours 3-1 pour l'AS Monaco à l'heure de jeu. Et on dit sur Ben Yedder.
Oui, Ben Yedder qui reste 2,5 matchs désormais, même un peu moins, avec l'AS Monaco qui est en fin de contrat, qui ne devrait pas prolonger, sauf vraiment énorme retournement de situation qu'on n'envisage même pas, et qui donc aura 34 ans durant l'intersaison au mois d'août, et qui devrait évoluer sous d'autres couleurs la saison prochaine. Alors on sait que bon, son image a été ternie ici à Monaco avec cette histoire extra-sportive, mise en examen pour tentative d'agression sexuelle, viol.
Et éteinte pour l'instant quand même, hein. Enfin, on n'en parle plus.
Oui, bah, pour l'instant, la justice suit son cours, ça prend son temps. On aura le fin mot de l'histoire sans doute même dans quelques mois et pas avant. Donc voilà, mais malgré tout, ça ternit cette histoire entre l'ASM et Wissam Ben Yedder, qui n'aura sans doute pas un grand hommage, un grand salut, peut-être qu'il aurait pu mériter après ces 5 saisons passées ici. En revanche, pour la première fois, il va peut-être conduire son équipe, lui qui est le capitaine, jusqu'à une qualification directe en Ligue des Champions. Chose qui n'avait pas été le cas depuis 2017-18. C'était la dernière saison complète de Leonardo Jardim avec l'AS Monaco.
Voilà pour Ben Yedder qui a fait le repli défensif d'ailleurs là sur cette action, et qui avait marqué un doublé face à Lyon, et ça lui avait fait du bien parce qu'avant il fallait monter au 4 février je crois pour le voir marquer.
Il avait traversé 7 matchs sans marquer en effet, et il était tout proche même, enfin il a mis même le triplé qui lui a été refusé d'Arien pour un hors-jeu au millimètre, et encore j'aimerais bien revoir plusieurs fois le ralenti, j'en suis même pas sûr, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas Pascal Gastien, pour revenir au match, il vient battre ses dernières cartes hein, là dans la bataille pour essayer d'apporter un petit coup de sang frais avec Jacquet et
Yann Fakili, qui entre. Le jeune joueur de 18 ans, c'est sa première en pro. Et je suis tenté de te demander, Sébastien, est-ce que c'est pas aussi pour à la limite préparer des jeunes joueurs à la saison prochaine, parce qu'il y a d'autres armes aussi sur le banc. Et faire entrer alors qu'on est mené 3-1 un jeune joueur de 18 ans qui découvre la Ligue 1. C'est peut-être aussi
un message pour
faire découvrir le monde.
Il y a un peu des deux, mais s'il s'entraîne avec les pros, c'est vrai que ça permet de lui donner un peu de temps de jeu, voire aussi, alors même s'ils seront certainement en Ligue 2 la saison prochaine, donc de voir un petit peu ce jeune joueur avec les pros. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que à la fin de cette saison, il risque d'avoir beaucoup de chamboulements au niveau d'équipe première, mais même en dessous, avec d'autres moyens.
J'allais dire attention à ce centre de la gauche de Clément Diatta qui avait débordé et qui avait mis un centre en retrait côté gauche. Le Sénégalais,
attends le score, Valentin, s'il te plaît.
N'a pas l'air de comprendre et il se replace. 3 pour l'AS Monaco, 63e minute de jeu.
Direction Miami, on traverse l'Atlantique, on a perdu un pilote. Jean-Luc, dans cette course sprint, on a atteint la moitié déjà.
Hein. Oui, même deux, puisque malheureusement, Lando Norris a dû s'arrêter après cet accrochage. On l'a dit tout à l'heure, le strike de Lewis Hamilton qui a balayé les deux Aston Martin. Et comme Norris était à l'extérieur, eh bien c'est lui qui a payé l'addition. Et puis également, Lance Stroll, dont la monoplace a été touchée suite à cet accrochage. Et Stroll s'est retiré également. Alonso, lui, est dernier pour le moment et 18e. Voilà qui va lui permettre toujours d'apprécier ses courses sprint. Ça, c'est une certitude. En tout cas, devant, Verstappen a creusé un écart de 2 secondes sur Charles Leclerc. Chacun fait sa course, on peut dire devant. Pérez, depuis qu'il a dépassé Ricardo, est solidement installé au 3e rang. Et puis Ricardo se bat pour retenir Carlos Sainz derrière avec la Ferrari. Il y a eu plusieurs attaques, mais il n'est pas passé pour le moment.
Oui, Magnussen qui vient de prendre 10 secondes de pénalité pour avoir coupé une chicane où c'est le grand jeu, les pilotes balancent les autres à la radio, et là c'est Lewis Hamilton, il a coupé la chicane.
C'est pas très beau, ça l'a dénoncé ses camarades, surtout tout le monde l'avait vu hein, à commencer par la direction de course, il a coupé la chicane, oh que c'est laid.
Madame donc, la maîtresse, il a coupé la chicane.
C'est exactement ça, on en est là. Je déteste ça moi, quand les pilotes utilisent la radio comme ça envers leur équipe pour signaler à la direction de course, comme si encore une fois avec
avec la multitude de caméras qu'il y a autour des circuits, les puces et tout ce que tu veux, de toute façon la direction de course le sait. Donc c'est bon, enfin bref, allez, c'est un septuple champion du monde. En tout cas, pour le moment, eh bien, il se retrouve normalement huitième de fait, hein, puisque avec les 10 secondes de pénalité, Magnussen va tomber. Je suis en train de regarder d'ailleurs, oulala, ça va le repousser, ben, dernier. Tiens, ça tombe bien. Magnussen qui aurait fait un beau grand prix jusque-là. Et on va signaler que devant la As de Magnussen, toujours huitième sur le terrain, mais dernier dans les faits, eh bien, il y a également Nico Hülkenberg. Et Hülkenberg, dont on rappelle qu'il a signé avec Audi pour la saison 2025.
Et tiens, les commissaires notent Lewis Hamilton qui aurait fait un excès de vitesse dans la ligne des stands. Hein. Bon, voilà.
Ah ben voilà. Bon, on va le dénoncer.
L'arroseur arrosé.
On va le dénoncer.
À tout de suite, Jean-Luc, pour la fin de cette course.
On est dans le 12e tour, hein, sur les 19.
Voilà, fin imminente. Monaco-Clermont, toujours 3-1. On revient dans un instant dans l'intégral sport sur RMC pour la fin de ce match. L'ASM qui a fait le Brest. Et puis on vous présentera aussi le match de 19h dans quelques instants. Sébastien avec ce Metz face à Rennes. Monaco-Clermont. Bon, comment tu vois cette fin de partie, Monaco qui gère ?
Ouais, d'ailleurs là il y a eu quelques changements qui viennent d'être effectués de la part d'Adi Hütter. Ouais, bah forcément ce deuxième but du celui du break leur fait du bien. Il reste quand même au moins 25 minutes, donc je les vois plus aller marquer un quatrième but. Voilà, des Clermontois, même s'il y a eu aussi des changements de leur côté, bon, ils sont quand même plutôt inoffensifs. Ils ont du mal à mettre en difficulté cette défense de Monaco.
Est-ce que vous voyez aussi une formation clermontoise qui sent que la Ligue 2, malheureusement, lui tend un peu les bras?
Bon, il n'y a pas de résignation, hein. On ne va pas dire que voilà, Clermont a baissé les bras, mais ils sont, je pense, simplement conscients et ils peuvent que constater qu'ils sont inférieurs aux équipes qui
rencontrent
en ce moment. Voilà, c'est ça. On parlait de l'effectif. Tu regardes le banc de Clermont et tu regardes le banc de plein d'autres équipes. Effectivement, c'est en termes de qualité individuelle et c'est normal, c'est aussi lié au budget. Inférieur à ce qu'on peut nécessiter pour rester en Ligue 1. Donc,
ce qu'ils viennent de faire en 3 ans, c'est quand même assez fort. Hein. Et je pense que avec justement avec les droits télé, avec ce qu'ils ont aussi travaillé au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont préparé certainement à un moment donné le retour en Ligue 2, mais ils se sont aussi structurés. Il y a les travaux au niveau du stade, le centre de formation.
Très grand centre de performance aussi, voilà. Ouais, qui est
donc,
en construction.
Donc là-dessus, c'est aussi une forme d'intelligence. Je compare un peu à Ajaccio à un moment donné, puisque je connais bien Yohan Cavalli. Quand ils ont fait leurs deux montées en 7-8 ans, on va dire, à chaque fois, ils se sont servis de l'argent aussi, des droits télé aussi pour s'améliorer en termes d'infrastructure et justement être plus performant sur la durée.
Et c'est vrai que là où il y a eu une part d'incompréhension, on a vu plusieurs scènes de mécontentement de supporters clermontois lors des dernières sorties, pas la dernière avec la victoire contre Reims, Valentin, Maxime et les Ultras, mais quand on pense, voilà, Clermont en Ligue 1, c'était quand même un club qui jouait plutôt les têtes d'affiche en Ligue 2, mais qui voilà, n'est pas non plus armé à chaque fois pour jouer en Ligue 1, donc c'était à chaque fois, je crois que Pascal Gassien le disait, presque un petit exploit de voir le Clermont Foot en Ligue 1.
Bien sûr, et puis on avait interrogé une période parce qu'on savait que Sébastien Bichard arrivait, donc la question était, est-ce que Pascal Gassien peut se faire limoger? Et on nous disait au sein du club, on est à notre place en fait, on n'est pas comme l'Olympique Lyonnais qui était dernier avec un budget énorme, on a le dernier budget de Ligue 1 et on sait très bien qu'on n'est pas voué à jouer l'Europe, jouer le top 10, on joue le maintien, donc il n'y a pas de panique du côté du Clermont Foot. Il y a évidemment beaucoup de déceptions, de tristesse, et les supporters s'étaient habitués aussi à pas manger du caviar, mais voilà, pour Clermont c'était exceptionnel quand même d'être en Ligue, hein. Et on reverra aussi peut-être et probablement Clermont jouer la montée, parce que c'est un club qui, comme disait Seb, c'est aussi très bien structuré et sait faire maintenant.
Et déjà quelques années avant la montée, ils étaient souvent dans le coup, saison après saison, donc le projet s'est vraiment fait avec stabilité et dans le temps, et ça a plutôt bien marché. Après voilà, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs exploits au niveau des maintiens ces dernières années.
Et ils attaquent un petit peu là côté droit, juste avec Kiaï dans la surface avec son grand gabarit, la passe elle est mauvaise en retrait vers Mohamed Cham et la remontée de balle de Camara, attention parce qu'il y a de la place sur le côté gauche pour Balogun qui est servi par Minamino, la bonne couverture de Coffrier, le Belge qui est venu tacler et mettre au son donc Folarin Balogun qui fait partie des entrants monégasques.
Ouais, il a remplacé Brelem Bolo, c'est du poste pour poste, entrée également de Kassoum Ouattara qui a remplacé lui Vanderson, ce qui signifie que Crépin Diatta a glissé au poste de latéral droit. Kassoum Ouattara lui un latéral gauche de formation. Et puis autre chose, alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les monégasques et les nantais aussi ça veut dire beaucoup, Marnès Sakliouche a pris un carton jaune et il sera suspendu pour la dernière journée face à Nantes. On sait que Nantes jouera peut-être son maintien ici même, donc voilà, ce sera sans Marlène Sakliouche dans les rangs monégasques. Et là, il y a un Clermontois, c'est Kofi
Ekieto. Ils ont aussi d'autres joueurs.
Oui, Ben Seguir sera de retour de suspension, mais Golovin ne sera pas de retour non plus. Donc bon, on peut imaginer quand même Ben Seguir et Minamino dans les couloirs, ça reste pas trop mal.
Le temps score, Valentin, Maxime.
Alors que Coffrier se relève, là, il s'est peut-être fait mal sur le tackle. Il va sortir, on va voir si ça va tenir. 3-1 pour l'AS Monaco face à Clermont. On entre dans les 20 dernières minutes de cette partie.
Retour à la F1 où il ne se passe pas grand-chose devant, mais en plein milieu du peloton, ça ferraille sévère, Jean-Luc Roy, la course sprint.
Exactement ça, Arnaud. On ne peut rien cacher parce qu'effectivement, Verstappen, toujours leader, avec 2 secondes d'avance sur Leclerc. On a Pérez, toujours solidement 3e, à peu près à 2 secondes de Leclerc. Et puis Ricardo, alors lui, il doit se battre pour maintenir Carlos Sainz derrière, mais ce à quoi tu fais référence, eh bien c'est la bataille pour le dernier point, le 8e, qui était entre les mains de Magnussen. On a vu Magnussen quitter la piste tout à l'heure, un petit peu en perdition, effectivement gagner un petit avantage, dénoncé par Hamilton immédiatement à la direction de course, donc 10 secondes de pénalité seulement. Voilà, au moment où Hamilton a essayé de passer Magnussen sur la piste, eh bien c'est Tsunoda, intelligemment, le jeune pilote japonais, qui a tiré les marrons du feu et qui est parvenu à s'emparer justement de cette 8e place, synonyme de 8e point. Ça veut dire qu'Hamilton, eh ben c'est pas bien de dénoncer ses camarades. Il est 9e. Alors même si Magnussen derrière va prendre des pions, mais bon, on a vu également que la bataille derrière, en fait, on a un train de DRS, pour être clair, parce que je rappelle que Tsunoda, quand même parti 15e, il est actuellement 8e. Pour moi, c'est lui qui fait le plus beau, la plus belle sprint race pour le moment. Et puis voilà, oui, on rappelle que Kevin Magnussen a 10 secondes de pénalité, ça on le savait depuis un moment. Donc, a priori, nous sommes maintenant à 3 tours de l'arrivée. Je vois pas ce qui peut empêcher Verstappen, sauf que Verstappen a signalé au stand qu'il avait quelques problèmes de traction et de surchauffe de pneus arrière. C'est une indication dont on pourra peut-être se servir pour demain. Comme le disent les pilotes d'ailleurs, la sprint race, ça sert juste à une chose, c'est avoir effectivement un long run avec un train de pneumatique et voir comment ce train se comporte. Avec un bémol toutefois, la charge en carburant, qui est le tiers de celle avec laquelle partent les pilotes. On rappelle qu'ils partent avec 110 kg de carburant au départ d'un Grand Prix.
Bon Jean-Luc, tu as déjà entendu une radio positive de Max Verstappen en disant « Non, non, tout va bien sur ma voiture ?»
Jamais.
Voilà. Il n'est jamais content. Mais bon, il est exigeant, c'est la marque des champions.
Après l'arrivée, en général, il dit « Oui, finalement, j'avais une bonne voiture. » Et il faut dire que bon, les autres... Alors là, on a effectivement aussi une investigation sur les passes d'armes, parce qu'il y en a eu deux, en fait, entre Hamilton et Magnussen. Bon, le pauvre Magnussen, on ne peut plus rien lui faire de plus. En fait, quand on va lui rajouter ses 10 secondes, il sera déjà dernier.
À part lui donner un drapeau noir ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, ou l'obliger à piloter avec une main demain pour le Grand Prix. Je vois un truc comme ça.
Juste Jean-Luc, on va suivre la fin de cette course sprint avec Max Verstappen qui a plus de 2 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Mais cette information, puisque le Paris Saint-Germain vient de communiquer, Lucas Hernandez a été opéré aujourd'hui en Autriche de son genou, victime d'une rupture d'un ligament croisé, genou gauche. Le joueur va désormais débuter un protocole de réhabilitation. Voilà, opération avec succès pour Lucas Hernandez. Forfait pour la fin de saison et aussi pour l'Euro avec l'équipe de France. Juste avant le dernier tour de cette course sprint, on va bientôt entamer le dernier quart d'heure et Monaco est tranquille à Louis II. Valentin Jamin, Maxime Tillier face à Clermont.
Le rythme a nettement baissé quand même depuis les changements. 73 minutes de jeu, 3-1 pour l'AS Monaco qui tranquillement l'a fait tourner et sent bien que ça y est, les 3 points sont quasiment dans la poche. Les 5 points d'avance sur Brest avant le match de ce soir, c'est primordial pour les monégasques. Décalage côté gauche là pour Monaco avec ce centre de Fofana, me semble-t-il, repoussé au premier poteau par Andy Pelmar. C'est Ouattara, effectivement, c'est ce que je suis en train de me dire, qui va revenir en retrait parce qu'il a le deuxième ballon vers Ben Yedder qui est toujours sur la pelouse. Il passe en retrait vers Thilo Kehrer. Tout le bloc monégasque est très haut et clairement se contente de subir des Clermontois qui recevront Lyon et qui iront à Lorient. Alors peut-être pour un duel de deux équipes déjà condamnées, c'est tout à fait possible lors de cette dernière journée, mais c'était aussi la possibilité d'entretenir un espoir d'avoir un adversaire à la portée peut-être plus du Clermont Foot en cette dernière journée. Mais pour l'instant c'est trop dur pour Clermont qui n'a pas le ballon, en plus qui ne voit pas le jour, et on a aucune idée de comment les Clermontois pourraient tout renverser. Jérémy Jacquet est entré tout à l'heure également, le joueur prêté par Rennes cet hiver pour les Auvergnats. Et là c'est Balogun qui est en face à face sur cette passe de Ben Yedder, l'arrêt de Maurizio du pied, magnifique arrêt de la part du gardien Auvergnat sur cette ouverture lumineuse de Wissam Ben Yedder pour Balogun qui est encore encore une fois manque un petit peu de finition.
Ah, parce que là il était vraiment en bonne position, la passe elle est magnifique, hein, dans le bon timing, l'appel est bon aussi d'ailleurs, mais après c'est vrai que lui aussi
trop tendre,
il en manque de confiance aussi, on l'a vu de quoi il était capable, mais on sait que les attaquants, voilà, quand ça va pas, tout à l'heure on parlait de la période de disette de Ben Yedder, bah lui aussi, hein, pourtant il a eu longtemps la confiance d'Adi Hütter, il était souvent
Mbolo était blessé, voilà. Donc ça, voilà,
mais,
ça le force
mais
aussi
c'est
à
vrai
jouer.
Que, voilà, il fait une saison très compliquée, due aussi forcément au prix du transfert, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, mais on sait tous que c'est un joueur quand même de talent, et peut-être qu'il lui faudra un peu de temps aussi pour s'affirmer vraiment à Monaco.
Voilà, au moins peut-être une saison d'acclimatation importante.
Ben Yedder, le face-à-face, Ben Yedder, il va la piquer, on l'a vu d'ici, le but de Wissam Ben Yedder, la finition magnifique du pied droit, il est signalé hors jeu.
Ah.
Ce but de Wissam Ben Yedder qui avait été servi en profondeur.
Il était tout proche d'un deuxième doublé. Et on va voir si ce sera bien
confirmé.
On va
voir. Direction juste Miami, messieurs, puisqu'on est dans le dernier tour de cette course sprint avec Max Verstappen parti en pole position. C'est limite. Vous nous interrompez si le but est finalement validé de Ben Yedder. Jean-Luc, le dernier tour.
Oui, absolument. Nous sommes dans le 19e et dernier tour de cette sprint race. Verstappen l'aura dominé de la tête et des épaules malgré l'intervention du safety car consécutive au gros accrochage, au gros carton du premier tour entre Norris, Stroll, Alonso et surtout Hamilton, hein, qui est le responsable de tout ce carnage. Hamilton qui chasse le dernier point mais qui n'y parviendra pas a priori. Donc on va franchir le drapeau d'Amier dans quelques secondes maintenant avec une nouvelle victoire de Max Verstappen dans une course sprint après celle qu'il avait remportée en Chine donc la semaine dernière. Charles Leclerc va se classer deuxième avec la Ferrari avec un écart de 3 secondes 4 exactement sur le leader Verstappen. Sergio Perez a récupéré la troisième position qu'il avait sur la grille de départ au détriment de Ricardo qui aura fait un magnifique Grand Prix. Daniel Ricardo qui défend bec et ongle. Et voilà, l'arrivée de Verstappen maintenant. Une victoire, et j'ai ce ton un petit peu monocorde également, parce que ça n'enchante pas honnêtement Verstappen de gagner une course sprint. Pour lui, ça n'est pas une vraie victoire. Les qualifs, ce sera tout à l'heure, on le répète, à partir de 22h, et le vrai Grand Prix, c'est demain, à partir de 22h. Mais bon, c'est toujours 8 points de plus dans son escarcelle, ça tombe bien, il en manquait un peu.
Donc, il préfère être premier quand même, rassure-moi Jean-Luc.
Il préfère, te rassure, il préfère être premier. Pour lui, c'est normal, voilà, il est premier.
Il est à sa place.
Charles Leclerc est deuxième, il était deuxième sur la grille. Pérez est troisième, il était troisième sur la grille. Ricardo est quatrième, il était quatrième sur la grille. Carlos Sainz, je m'arrête là, est cinquième, il était cinquième sur la grille.
Pourquoi il a fond alors
cette... Et bah voilà, après on a Piastri sixième.
C'est des Alpines. On va faire un peu de cocorico, même si le coq chante pas trop. Hein.
Non, bah il est onzième, Pierre Gasly, c'est pas trop mal. Ocon est 17e, mais je rappelle qu'il y a eu ce crash et ce carnage au milieu qui a quand même éliminé Norris immédiatement et puis Stroll et puis mis Alonso derrière. C'est la raison pour laquelle on a avancé de 3 ou 4 ans derrière. Voilà.
Merci. Jean-Luc, tu restes dans les parages puisqu'à 22h, la qualification pour le vrai Grand Prix
là,
qui aura lieu demain.
Sérieux, j'ose le dire.
Absolument. Merci Jean-Luc, à tout à l'heure. Le temps, le score, Monaco-Clermont, ça n'a pas bougé finalement, but refusé. Hein.
Ouais, non, but refusé à Ben Yedder pour hors-jeu, 77 minutes de jeu, toujours 3-1 pour l'AS Monaco.
Valentin Jamin et Maxime Tilliet à Louis II pour les 10 dernières minutes de cette rencontre entre Monaco et Clermont à 19h. Metz-Rennes, on parlera de cette rencontre à Saint-Symphorien dans un instant avec Sébastien. Sébastien Piocelle, c'est l'Intégral Sport jusqu'à 19h.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Sébastien Piocelle jusqu'à 19h. À 19h, ce sera Stephen Time, Stephen Brun et Benoît Boutron avec plusieurs invités, dont un NBA, Bilal Koulibaly, l'arrière des Washington Wizards, sera l'invité de Stephen Time à partir de 19h. Soyez bien au rendez-vous. Nous, on continue de parler Ligue 1 Monaco qui mène toujours 3-1 face à Clermont. Il reste 10 minutes. On retrouvera Valentin Jamin et Maxime Tilliet dans un instant. Mais la Ligue 1 s'enchaîne. Vous le savez, demain, 5 mai, il n'y aura pas de match en hommage à la catastrophe de Furiani, donc beaucoup de matchs éclatés. On jouera lundi notamment avec un Lille-Lyon très alléchant. Mais tout à l'heure à 19h, un match intéressant, Metz-Rennes pour les Messins qui ont la pression depuis que Le Havre a gagné tout à l'heure face à Strasbourg cet après-midi. Au commentaire à Saint-Symphorien de ce match à 19h, Patrick Muller. Salut Patrick.
Salut Arnaud, merci de le rappeler. Hein. Merci de rappeler cette pression. Hein. Évidemment. Salut et Seb, évidemment.
Salut
aussi.
Patrick. Mais c'est la pression, les Messins.
Oui. Et on est en fin de classe, fin de championnat. Il reste peu de points à prendre. Les Messins qui sont pour l'instant barragistes, 29 points. 3 points d'avance sur Lorient, premier relégable, 17e. 3 points de retard sur Nantes qui est 15e. Patrick, d'abord, peut-être avant de parler des enjeux et comment on se sent côté Messin, les compos qui nous intéressent évidemment de ce match entre le Football Club de Metz et le Stade Rennais.
Alors, en commençant par celle du FC Metz, un absent de poids, c'est Mathieu Hudol, le capitaine, qui occupe habituellement le poste de latéral gauche, qui a eu un souci musculaire dans la journée. Il est remplacé par Fally Kandé. Dans les buts, c'est bien évidemment Alexandre Oukidja. En défense donc, de gauche à droite, Kandé, Traoré, le capitaine d'un soir, Erel, qui revient dans ce 11 en tant que titulaire, Colin à droite, Endoram, Lamine Camara, Atta au milieu de terrain, trois joueurs à vocation offensive. On aura Vanden Kerkhoff à droite, Diallo à gauche et l'inévitable Georges Mikotadze, l'homme aux 11 buts en 17 matchs avec le FC Metz. Et puis côté Rennais, beaucoup de changements opérés par Julien Stéphan. Bien évidemment, on pouvait s'y attendre suite à cette défaite rocambolesque. 4-5, 5-4 concédé à domicile face à Brest. Mandanda dans les buts. Un seul survivant par rapport à cette défaite assez surréaliste en défense, c'est Théat dans l'axe. À gauche, Truffert. À côté de Théat, Wu. Seydou à droite, Doué qui descend d'un cran en tant que récupérateur, à ses côtés Mathieu Siwa, Martin Terrier qui est décalé à gauche, Bourigeaud à droite et la paire d'attaquants plutôt alléchante, Gouiri et Kali Mwendo.
C'est très offensif de la part de Julien Stéphan. Alors il y a besoin de changer un peu les choses parce que la passe rennaise est un petit peu compliquée, hein. C'est dur quand même, il y a pas mal de défaites qui s'enchaînent là. Il y a à domicile 5 défaites sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, hein.
Ouais, c'est un peu illisible par moment, alors un peu comme les compos. Alors pas sur la qualité de l'équipe alignée par Stéphan, mais c'est vrai que cette équipe, elle est capable du meilleur comme du pire, beaucoup du pire actuellement, mais c'est vrai que quand on voit les joueurs alignés, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent aussi un bon match, on ne sait pas. Et comme quoi, il a quand même une profondeur de banc et d'effectif qui est quand même hyper, hyper intéressante.
Les Grenats, Patrick, tu les connais très bien. Ils ont quand même repris des couleurs avec les victoires contre Lens, Le Havre dans le sillage d'un homme, Georges Mikotadze, le roi Georges, comme on dit en Moselle.
Exactement, c'est évidemment le joueur plus. On pourra mettre beaucoup de plus derrière ça d'ailleurs. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Petite stat, il en est à 0,65 buts par match, tout simplement derrière Mbappé dans ce championnat. Personne ne fait mieux, hein, parce qu'il faut préciser qu'il n'a joué que 17 matchs parce qu'il est parti effectivement du côté de l'Ajax. Ça s'est très très mal passé. Il s'est rapatrié, si je puis dire, ici à Metz. Et depuis, il a relancé cet élan dans la foulée de cette incroyable année 2022-2023.
Il avait eu un peu de mal à se mettre en route.
C'est vrai.
Je pense qu'on attendait tellement de lui. Et puis il fallait qu'il se réadapte. Il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu en plus depuis le début de saison. Mais depuis, il sait tout faire en fait.
Il a commencé à marquer à la 23e journée et depuis il n'a quasiment pas arrêté. Et clairement, il a remis l'espoir dans le camp messin. Il y a eu une petite déconvenue, encore que, avec cette défaite face à Lille à domicile lors de la précédente journée, mais il y avait clairement une classe d'écart. Et d'ailleurs, les Messins avaient mené au score grâce précisément à Georges Mikotadze. Mais pour le reste, bon, je pense qu'on est déjà assez soulagé d'avoir vu Lorient perdre. Parce que dans l'esprit des Messins, il faut avant tout consolider cette phase de barragiste, même si c'est pas forcément une position enviable, et voir éventuellement ce qui se passe devant. Bon, il y a eu cette défaite.
Clairement aussi,
Clairement pareil. Ouais.
Et Metz peut faire une très belle opération en cas de succès.
Bien sûr.
Ils seraient presque assurés de ne pas être relégués, c'est-à-dire au moins barragiste, puisqu'ils auraient 6 points d'avance sur Lorient, alors qu'il reste 2 matchs derrière et une différence de but, moins 19 pour les Messins, moins 26 pour les Lorientais. Merci Patrick, le coup d'envoi dans 17 minutes. De Metz-Rennes à suivre dans Stephen Time avec toi à Saint-Symphorien. Et nous, on parie sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet qui est de retour.
Bonjour messieurs.
Alors, si on n'écoute pas Sébastien Piocelle aujourd'hui, je ne comprends rien à la vie.
Ah, ça...
Merci.
Il fait passer des My Match à 9, des cotes à 5,70. On a retrouvé le Sébastien Piocelle joueur, j'ai l'impression.
Ça date alors, ouais.
Galette sur galette.
Qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans là, mince.
Allez,
monsieur,
que faut-il jouer?
Les cotes sèches, c'est 3,70 la victoire de Metz. Le nul est à 3,55. Rennes est à 1,94. Et bien sûr, ce coup-là, messieurs, je vais la jouer petit bras. Je vais pas donner de vainqueur. Je vais vous proposer les deux équipes qui marquent avec soit Mikotadze, soit Kali Mwendo, soit Terrier buteur. C'est coté à 2. Ça me paraît pas mal du tout.
Pas mal, mais je vais aller plus loin.
Fais pas petit bras là. Pas ce soir.
Il m'a regardé. Vous ne l'avez pas, mais ce regard.
Je suis d'accord sur les deux équipes qui marquent, mais je vais mouiller Rennes qui va s'imposer à Metz.
Rennes qui s'impose avec les deux équipes qui marquent. C'est coté exactement à 3,65.
Ouais, j'y vais. Alors, en pensant un peu aux Nantais aussi. Hein. Voilà.
Bien donc, c'est surprenant.
Oui.
Merci Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
De retour à Louis II, Monaco-Clermont, où les Monégas se dirigent vers une nouvelle victoire. Eux qui sécurisent pas totalement leur place de dauphin, mais qui prennent une belle option. Et surtout, on attend du résultat des Brestois qui jouent ce soir contre Nantes. Pour l'instant, Valentin, Maxime à Louis II, les Monégas ont 5 points d'avance sur les Brestois qui ont certes un match en moins.
Oui, 86 minutes de jeu, 3-1, ils gèrent cette avance au score ce soir, les Monégasques, depuis le troisième but inscrit par Wissam Ben Yedder. Il y a eu quelques occasions quand même pour l'AS Monaco, mais on sent que on est aussi un petit peu en mode gestion. Ballon récupéré haut là par Ben Yedder sur un mauvais dégagement, il va réussir à avoir un face-à-face derrière, la passe en retrait pour Minamino, le retour exceptionnel de Jacquet, derrière Balogun, il frappe Mauricio qui était au sol et qui s'est peut-être d'ailleurs fait mal, il boite, mais sur cette très mauvaise relance clermontoise, on a encore eu un très bon Wissam Ben Yedder qui, grâce à un contre favorable, a eu l'opportunité de la mettre en retrait. Et finalement, encore une fois, Balogun qui mange un peu la feuille.
Ouais, Minamino, avant ça, il y a eu un gros retour. Je crois que c'est Jacquet qui s'est jeté, qui a mis le corps en opposition. Balogun derrière, c'est Morejo qui fait l'arrêt parfait. Il va y avoir une nouvelle situation.
Avec Minamino, servi par Akliouche, il va la mettre à Ben Yedder. Est-ce qu'il va avoir son doublé? Il va avoir son doublé. La finition de Wissam Ben Yedder. La faute de frappe du pied droit pour une demi-seconde après. Finalement, la croisée. Wissam Ben Yedder célèbre. Wissam Ben Yedder claque un doublé. L'AS Monaco mène 4-1.
Et on lui a refusé le doublé tout à l'heure sur un hors-jeu d'un millimètre avec son ballon piqué. Il a failli nous la refaire. Finalement, il a feinté. Morejo est tombé dans la feinte. Et derrière, le plat du pied facile en dilettante. Mais avec la grande classe de Wissam Ben Yedder, ça fait 4-1. Monaco met la pression sur Brest et Lille.
Quel but, et on n'a même pas eu le temps de parler de l'action d'avant parce que je voulais revenir sur la passe en retrait. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient frappé au but et là dans la foulée il marque un but, mais bon, il va quitter Monaco, mais je pense que Monaco va devoir se réinventer quand même, hein, sans Ben Yedder, hein, parce que mine de rien ça fait un moment qu'il est là et puis il est toujours là pour marquer des buts, hein, on voit ses statistiques. Et puis quelle classe en fait, parce que la petite feinte là, juste pour faire tomber le gardien, bon, il n'y en a pas beaucoup qui la ferait. Et après derrière, ça semble tellement facile pour lui.
Puis la petite galette de Minamino,
oui aussi, ouais. Oui bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que là, c'est un festival de la part de Ben Yedder. C'est vrai qu'on est habitué, hein, à ce genre de but avec lui, mais franchement, il va manquer à Monaco et certainement au championnat de France.
Tu le vois où potentiellement? Dur à dire, hein.
Ouais,
plus à l'étranger.
Je pense que ça s'apparente à un dernier contrat. Donc, on sait que.
L'Arabie Saoudite.
Ouais. Où ça sera peut-être le Qatar. Mais voilà.
Un retour à Toulouse, 30, ça serait pas
34
beau.
34 ans. Ouais, après, on aime, hein, toutes ces histoires-là. Mais après, il faut regarder aussi ce que veulent les joueurs. Des fois, les retours, c'est jamais évident non plus dans son ancien club. Mais après, ça sera un dernier contrat et certainement pour lui. Donc. Ouais, je le vois bien partir en Arabie Saoudite ou au Qatar.
C'est vrai qu'on en parlait, Maxime. Pour l'instant, il y a rien qui se décante. C'est assez flou, hein, sur son avenir. Tu disais, il devrait partir. Peut-être un rebondissement, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à savoir où il jouera.
J'ai du mal à imaginer un rebondissement parce que franchement, il a un salaire qu'on ne donne plus aujourd'hui à l'AS Monaco sur tous les nouveaux contrats. Quoi. Il est à plus du double d'un Alexander Golovin, par exemple. Donc voilà, c'est encore autre chose. Après, c'est vrai que cette histoire potentiellement judiciaire, on verra quel en sera le fin mot, mais ça peut aussi refroidir certains clubs. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se projeter dans ces situations-là. Là, il y a un très gros tacle.
Ouais. Il va prendre rouge.
Il va à minima jaune. Ouais, déjà, il est sorti de la poche.
Ouais, c'est un jaune.
C'est Bouchena qui est entré en jeu côté Clermont.
Encore, un jeune. Hein, préformé à Istres.
C'est pareil, on parlait tout à l'heure de Fakili. Il a lancé également le jeune Mohamed Hamid Bouchna, qui a 17 ans, lui, qui est encore plus jeune, qui était effectivement arrivé de Istres en 2021 et qui est d'ailleurs vice-champion du monde avec l'équipe de France U17. Un gros potentiel de cette équipe de Clermont qui découvre la Ligue 1 et qui là a fait une grosse faute alors qu'il y a du changement et un grand retour, Maxime, pour l'AS Monaco.
Ouais, Caio Henrique qui s'apprête à rentrer pour jouer les 30 dernières secondes du temps réglementaire plus le temps additionnel. Caio Henrique qui n'a joué que 6 matchs, hein, seulement cette saison. Il a eu le temps tout de même de délivrer 4 passes décisives, mais avec sa patte gauche évidemment. Mais il a été touché au ligament du genou en octobre et il a évidemment manqué à cette équipe de l'ASM. Et évidemment, les supporters monégasques sont ravis de le voir revenir avec son pied gauche qui est d'une qualité au-dessus largement de la moyenne. Entrée également de Mohamed Koulibaly dans l'entrejeu pour donner quelques minutes aussi aux jeunes formés à Monaco, comme Magassa qui a remplacé Camara il y a quelques minutes.
Il est sorti notamment d'Akliouch qui n'a pas fait un match exceptionnel, mais c'est peut-être lui qui est le meilleur espoir de ouais. cette saison.
Oui, c'était le débat dans la semaine.
Le fameux débat, oui. Avec le trophée UNFP,
ouais, voilà. Adjuteur qui n'est pas nommé hein, d'ailleurs parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1, ce qui a aussi un peu surpris du côté de l'AS Monaco.
Il y a Eisner.
Bah, ils vont se maintenir, le Havre.
Sur quel temps il dit ça, Sébastien?
Non, mais attention, j'étais assez admiratif de la première partie de saison du Havre, et puis j'espère aussi pour eux, pour Mathieu Bonheur, qu'ils vont se maintenir. Mais c'est juste, c'est assez surprenant, parce qu'à la rigueur, même bon, c'est vrai qu'ils ont des moyens à 18 heures, il y a une première partie de saison moyenne. Mais même à la rigueur, si on va sur moins de temps, moins de durée, peut-être même Pierre Sage à la rigueur, ouais, ça aurait pu être aussi. Alors peut-être parce qu'il n'a pas le diplôme.
Même un Farioli. Hein.
Ouais, Farioli. Oui, ouais.
Oh, le Farioli Ball.
Mais
ça va mieux, c'est les dynamiques. C'est vrai que si tu juges au mois de mars, comme ça, là, ils ont peut-être recueilli les votes à ce moment-là. Ouais, le Havre sortait d'une belle dynamique. Ils avaient battu Lyon, notamment chez eux. Nice, ça marchait moins bien. Et là, Nice et Monaco, c'est deux équipes qui, dans le sprint final, ont pris du poil de la bête.
Ouais, mais Pierre Sage, non? Non,
bah je, oui, oui.
Je m'emballe pour rien.
Tu as vu ce qu'il a dit, non, Pierre Sage, aujourd'hui en conférence de presse. Ça, d'ailleurs, je pense écouter les grandes gueules, un débat. Il a dit comment on peut juger un entraîneur quand on ne voit pas les entraînements.
Ouais, intéressant. Mais après les
faudra les ouvrir, après... n'est-ce pas, messieurs Valentin?
Ouais, après il y a aussi les résultats et puis l'identité que tu mets aussi à ton équipe. Enfin, il y a plein de choses.
Tu mettrais qui meilleur entraîneur de Ligue 1? Tu votes qui?
Comboiré, non, Seb?
Éric Roy, Luis Enrique?
Non, alors ouais, entraîneur manager, parce que finalement c'est ça aussi. Je mettrais Éric. Voilà, pour ce qu'il fait là avec Brest, pas tout seul, hein, mais collectivement.
Ah, messieurs, il y a un pénalty pour Clermont. Il y a une main sur ce. Alors, on pensait qu'il donnait 6 mètres, monsieur Benelac. ouais, bah, c'est vrai que ça n'a pas changé grand chose à 4-1, mais un pénalty à venir pour Clermont, puisqu'il y avait un coup franc côté gauche, une tête clermontoise touchée par la main de Crépin Diata, me semble-t-il, selon monsieur Benelac. Et Mohamed Cham a posé
un gros moment de flottement, en tout cas. Et Hakim Benelac qui échange avec Willy Delajo qui est à la VAR cet après-midi. Il y a la main. Est-ce que le ballon est dévié juste avant? Et ça pourrait peut-être changer la décision d'Hakim Benelac et donc de Willy Delajo à la vidéo.
Il a été appelé ou pas?
On temporise. En tout cas, ils échangent. Hein, ils sont en train de discuter entre la VAR et le terrain, les arbitres en place sur cette rencontre. Ouais, ils discutent, on va prendre son temps. Pendant ce temps-là, on a des gros plans sur l'arbitre. Pas de ralenti,
c'est votre débat, si vous voulez, messieurs.
Non, je parlais d'Éric Roy et je disais que par rapport aux moyens à sa disposition et puis surtout l'année et la saison et demie finalement, parce qu'il faut se rappeler aussi comment il a récupéré Brest, même s'il
les maintient.
Pas,
ouais.
Voilà, après il fait pas un travail seul, hein, il y a Lorenzi, tout ça. Donc sur la saison, si on fait le rapport par rapport aux moyens de ce club-là et où ils vont être à la fin de la saison, je pourrais le mettre devant.
Bon, en fait, un autre débat, vous pouvez toujours.
Il y a la place. Hein. On ne sait pas si le pénalty est validé pour Clermont. Ça fait 4-1 au tableau d'affichage. Potentiel pénalty pour les Clermontois qui ne changerait sans doute pas grand-chose.
Ou sinon, Fonseca, éventuellement.
Non, mais
si vous allez après dans la qualité d'entraîneur, la qualité du jeu proposé, et dans ce cas-là, je mettrais plus Fonseca.
Vous pouvez faire un autre débat encore, monsieur Benella, je fais les 100 pas. On n'a pas de validation du pénalty pour le moment.
Et sinon, le pire entraîneur.
Alors, est-ce qu'on va voir ce pénalty?
Vous n'avez pas répondu, hein, ce débat.
Non, c'est pas notre rôle. 4-1 pour Monaco, c'est terriblement long, on va pas se le cacher.
Ah, c'est incroyable.
On va rentrer dans la cinquième minute, dès 5 minutes de temps additionnel. 4-1 pour Monaco, le score est plié. Évidemment qu'on ne donne pas des buts et c'est normal que ça puisse être discuté. Mais
surtout la différence de but peut être importante.
Voilà. 28 là, pour les Clermontois. Lorient est à moins 26, Metz à moins 19.
Il y avait Nantes en jeu des 20.
Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est tout ça pour ça, en fait.
Donc ce sera un dégagement pour Majewski et pas de pénalty, alors que Mohamed Cham s'était saisi du ballon. Il était sur 4 sur 4, l'Autrichien.
Cette année, en 2022.
Oui, cette année, ouais, bien sûr. Et finalement, une ultime relance pour le gardien monégasque qui parcourt avec sa défense. On passe dans le cœur du jeu avec Magassa devant lui vers Fofana, qui a de l'espace, qui va justement prendre cet espace, avancer à grandes enjambées, passer les milieux de terrain sur sa droite, Ben Yedder. Il y a des espaces encore vers Caio Henrique qui s'est positionné dans son couloir droit, le bon contrôle. Il va aller fixer Borges pour se mettre sur son pied gauche. La passe passe vers Benyedder, le 1 de Kayonri qui est l'accélération côté droit. Il manque de sensation, on le voit, parce qu'il a trop poussé son ballon, il a voulu éviter le 6 mètres, c'est finalement quand même sorti, et peut-être un ultime dégagement à venir pour Moridio.
Ouais, il avait la place peut-être pour la tenter, tenter le centre du pied droit, ouais, mais il n'a pas osé. Peut-être que quand on est gaucher c'est comme ça, hein, c'est dur, alors qu'on revoit le ralenti sur le potentiel hors-jeu,
la main,
qui semble
le bras.
Ouais, très très léger, très très léger le hors-jeu. En tout cas le pénalty a été finalement annulé pour les Clermontois et le score en reste à 4-1. Le dernier ballon et la déviation de Nicholson qui rend le ballon au Molégas, qu'on devrait sans doute en rester là.
Oui, on a dépassé déjà le temps additionnel de 25 secondes. Dernière possession monégasque, Monaco qui va prendre provisoirement 5 points d'avance sur Brest, hein, pour la deuxième place. Donc très belle opération à venir pour les hommes d'Adiuter. Et puis bah, clairement, on le disait à la mi-temps, qui avait un pied et quelques orteils en Ligue 1, évidemment le constat ne change pas. Et puis officiellement, clairement en tout cas, ne peut plus espérer qu'être barragiste, hein. Il n'y a plus aucun moyen évidemment de passer au-delà de la 16e place pour les hommes de Pascal Gatien. Ballon long, ballon clairement toi capté par Majeski. On est reparti court avec Magas sur la droite encore vers Caio Henrique qui est dans le camp clermontois et qui va toucher l'ultime ballon de cette partie. La victoire à domicile de l'AS Monaco, 4-1 face au Clermont Foot après la défaite face à Lyon. L'AS Monaco se reprend. Minamino, Mbolo, Ben Yedder pour le doublé ont marqué les buts, alors que Mohamed Cham avait égalisé en début de partie pour les joueurs clermontois qui sont au sol effondrés. Monaco est fier et heureux de prendre un petit peu d'avance dans la course à la deuxième place. 4-1 pour Monaco.
Merci Valentin, merci Maxime. Les réactions à suivre sur rmcsport.fr. Donc Monaco, deuxième du championnat avec désormais 5 points d'avance sur Brest qui joue tout à l'heure à 21h face à Nantes. Seb, un mot, les Monégasques, implacables, logique.
Oui, non, ça a été plus que logique, même sur l'ensemble du match. Ils se sont fait un peu peur avec l'égalisation rapide des Clermontois, mais bon, il y a deux classes d'écart entre les deux équipes, entre les deux clubs. La logique est respectée, et surtout ils mettent beaucoup de pression, on va dire, aux poursuivants, et notamment à Brest qui va jouer ce soir. Mais voilà, ils ont quasiment acté leur deuxième place.
Merci beaucoup Sébastien. Avec deux matchs de Ligue 1 à suivre à 19h, Metz contre Rennes, et à 21h, Brest qui reçoit les Canaries de Nantes. Là aussi match important, à la fois Brest le haut de classement et Nantes le bas de classement. La doublette magique du samedi soir arrive dans un instant sur RMC. C'est Stephen Time, Stephen Brun, Benoît Boutron. Très belle soirée à l'écoute de RMC.
RMC Intégral Sport.